Vous écoutez
RMC.
RMC.
Hier soir, je me suis un peu reposé. Je me suis refait le Chelsea-Liverpool.
Voilà, est-ce que tu changes ton fusil d'épaule?
Lequel de fusil, lequel d'épaule?
Je vois tous les mecs qui sont invités, qui ont évidemment, qui ont tous passé par la première ligue, sur des médias français qui ont tous la banane. Hein, c'est génial, Manchester City, regarde, oh!
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Génération After. Ce soir au programme, la suite et la fin des huitièmes de finale, retour de Ligue des Champions, coup d'envoi des deux matchs à 21h. Autour de la table, à mes côtés pour Génération After, un homme qui incarne Génération After, Coach Courbis. Bonsoir coach.
Salut les amis et salut à tous.
C'est dans l'émission des jeunes là ce soir coach, hein. C'est Génération After.
Ah ben oui.
Ceux qui sont nés après 1990.
Ben oui, mais c'est...
T'aimes bien, toi, hein?
Là, je me sens fou, c'est ce que tu as dans la tête.
Exactement.
C'est bon, ça.
J'accueille également Walid Acharchour. Salut, Walid.
Salut, Nico. Salut à tous.
Dans Génération After, ce soir, bien sûr, on va suivre en gros fil rouge les deux matchs de Ligue des Champions. Certains disent qu'il n'y a plus de suspense entre le Real et Liverpool. On verra ça dans quelques minutes, bien sûr. 5-2 à l'aller pour le Real.
Compo ultra offensif de Liverpool.
On en parle dans un instant. On va donner toutes les informations concernant l'autre match également. L'autre huitième de finale retour entre le Napoli et l'Eintracht Francfort. 2-0 pour le Napoli. Napoli au match aller. Le Napoli qui reçoit ce soir. On sera avec les quatre drôles de dames dans Génération After. On reviendra également, tiens, ce soir avec les drôles de dames sur la parodie d'arbitrage hier soir lors du City Leipzig. À quoi sert la VAR? Si elle ne voit rien ou presque. On va en débattre. Coach, un avis tranché sur l'assistance vidéo. Je ne savais pas que tu détestais à ce point la VAR, coach.
Pourquoi à ce point?
Tu n'en veux plus?
Pas du tout. Et je te dis, en ce qui concerne l'utilisation de la
VAR. Ah, tu veux une autre VAR?
Mais non. Alors, ce soit pour les hors-jeux, tout ça, mais ok, je trouve très, très bien. Mais en ce qui concerne les pénalties, j'ai encore rien compris dans le règlement. Et ensuite, c'est insupportable pour moi quand il y a un arbitre qui ne va pas prendre son temps d'aller voir pour être sûr de ne pas s'être trompé, c'est tout.
Je demande des améliorations de l'assistance vidéo. On va en parler tout à l'heure avec toi et avec Walid. On parlera de Nice également, dernier rescapé français sur la scène européenne avant de recevoir le Sheriff Tiraspol 1-0 au match aller. Quelle ambition peut nourrir le gym en Ligue Europa Conférence? Quart de finale, demi-finale, finale. On va détailler le plateau. On sera avec Maxime Thiette, notre correspondant, puis l'équipe de France demain. Première liste post-Coupe du Monde de Didier Deschamps. Le dossier gardien dans Génération After. Petite révolution à venir. Walid a une vraie affection pour Brice Samba, coach. Comme toi, je crois.
Ah ben oui.
On va en parler.
Je crois que dans tous les cas, soit on y voit rien, ou soit on fait semblant de...
Tu sais que c'est pas sûr qu'il y soit, apparemment.
Il va peut-être y être. Il va peut-être y être.
Ou pas, justement.
Ou pas.
Non, des infos à vous donner également.
T'es en train de... Mais si... Ah, tu nous poses la clim, là.
S'il n'y a pas, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu qui va sera donc.
Alban Lafont, par exemple, et Alphonse Areola.
D'accord.
Areola.
Oui. Areola, le remplaçant à West.
Gardez-en, les gars. Ouais, on va faire le débat tout à l'heure avec vous au 32-16.
Si tu arrives à me démontrer que Brice Samba, il est inférieur à Areola.
C'est pas le sujet. Tu connais bien la vie du groupe.
Les barbecues.
Ouais.
Il aime bien les gentils garçons des champs, ouais, tu sais, qui font pas de bruit.
Oh, les gentils garçons.
Non, non, mais Areola,
il est gentil, Alphonse Areola.
Ah oui, mais très gentil, très sympa.
Oui. Ouais.
Et puis à 22h, comme tous les soirs, bien sûr, l'after avec Gilbert Bribois. Salut Gilbert.
Salut les gars. Là, tu sais que t'as la doublette.
J'adore.
La doublette explosive.
Ah oui.
Ouais. Attention, Walid Roland.
Rencontre générationnelle.
Ouais, ça peut être très chaud. Hein.
Oui, mais ah, non.
Je sais. Oui, mais toi, Walid, après
ça. Walid, je le connais par cœur. Il est là, il est en face de Roland. Il
a trop de respect pour coach, Walid. Trop de respect.
Ah non, moi, c'est un plaisir. J'aime bien aller au combat.
Il faut que tu le rentres dedans quand même ce soir.
J'aime bien aller au combat avec Roland quand il faut aller au combat.
Contre Roland.
Voilà, contre Roland.
Ouais,
après, quand on est d'accord, on est d'accord.
Alors, à 22h, évidemment, les matchs, hein, parce que si jamais il y a une once de suspense dans les deux matchs de Ligue des Champions, vous ne raterez absolument rien, évidemment, ce soir. À 22h, on va parler de nos instances internationales qui, tous les jours, nous régalent, la FIFA, l'UEFA. Donc là, Seferin, il veut ouvrir la porte à la possibilité d'avoir deux clubs ayant le même actionnaire en Coupe d'Europe.
D'accord. C'est bizarre.
Tous les arrangements sont possibles. Ouais. Hein, voilà. Donc, ouais. Daniel Riolo veut en parler. Lionel Charbonnier sera là. Il donnera son avis d'ailleurs sur la nouvelle hiérarchie possible des gardiens en équipe de France. Il veut aussi revenir sur la sortie prématurée d'Haaland hier, que certains n'ont pas comprise. Lui va expliquer pourquoi il est sorti. Voilà, parce qu'il était coach, Lionel.
Et il connaît Guardiola également.
Exactement. Donc ce sera tout à l'heure. Les drôles de l'homme pour analyser les matchs du jour et le plateau des quarts de finale de Ligue des Champions. Et puis on ira en Suisse. Entre 23h et minuit, on vous racontera comment le Qatar a espionné le procureur suisse qui s'intéressait justement aux affaires de corruption et d'attribution de la Coupe du Monde. Voilà. Bon, faut dire que le procureur, il a fait sa réunion dans un hôtel qui appartient au Qatar. Peut-être pas très malin. Bon, on vous racontera tout à l'heure. C'est une affaire d'espionnage passionnante. Ce sera dans l'after tout à l'heure.
After 007, quoi.
Exactement.
Avec Daniel et Lionel Charbonnier. Tout à l'heure, cher Gilbert. La Ligue des Champions d'abord pour commencer. Dans moins d'une heure, le coup d'envoi à la fin des huitièmes de finale retour de Ligue des Champions. Liverpool est-il capable de renverser le Real ? Fred Hamel est avec nous. Salut Fredo.
Hola chicos.
Julien Laurence également. Salut Julien.
Salut Fred.
Salut Nico. Salut à tous.
Et au commentaire de ce match, Jeannot Rességui. Bonsoir Jeannot. Bonsoir Jeannot. Il va arriver dans un instant, Jeannot Rességui. On entend l'ambiance du stade Santiago Bernabéu. Ça arrive dans quelques secondes. Bon, avant d'avoir les compositions, on va vous les donner dans un instant. Bien sûr, elles sont officielles à moins d'une heure du coup d'envoi de ce match. Fred, la question. On a commencé à l'évoquer lundi soir. Le Real est-il à l'abri d'une très mauvaise surprise ce soir?
Non. Et la compo d'Ancelotti montre que le Real ne se sent pas sûr de lui. Parce que on peut peut-être la donner rapidement. Enfin, c'est l'équipe. On va dire c'est l'équipe type quoi. C'est la meilleure équipe possible. Alors qu'il y a un classico qui va décider de l'avenir de la Liga. Dimanche, le Real joue au Camp Nou. Et si le Real ne gagne pas là-bas, c'est fini pour la Liga. Encore plus s'il perd. Donc, on pourrait imaginer qu'avec un 5-2 à l'aller à l'extérieur, tu vas réserver quelques joueurs clés. Ben non, il y a tous les grands. C'est la meilleure équipe possible, alignée par Carlo Ancelotti. Donc, Carlo Ancelotti déclare clairement avec son 11 qu'il se méfie absolument de cette équipe.
C'est une surprise pour toi, Fred ?
Ah non.
Oui, c'est logique.
C'est logique. Mais c'est-à-dire que c'était logique aussi quelque part par rapport au résultat de penser un peu au match de dimanche. Mais non, parce que Ancelotti, il connaît le football, il connaît l'histoire. Je vous rappelle qu'Ancelotti avec Milan, il gagnait 3-0 à la mi-temps contre Liverpool. Vous vous souvenez de cette finale?
Bien sûr.
Hein, et qu'il a perdu au tir au but. Donc non, il y a aucun risque. On veut même éviter ce qu'on appelle en Espagne le susto. Le susto, c'est se faire peur. Voilà, parce que il y a tellement d'exemples, et on en parlait lundi hein, dans l'after spécial DDD, qu'il y a tellement d'exemples, notamment lors des trois années magiques avec Zidane, où le Real gagnait facilement à l'aller.
La Juve notamment.
Et la Juve, le Bayern, il se faisait extrêmement peur au retour.
3-0 à Turin, mené 3-0 au retour à Bernabéu avant de marquer pour se qualifier.
Avec le penalty
Chelsea sur également, les gars, en quart de finale, la saison dernière.
En Chelsea l'année dernière, où ils avaient gagné 3-1 à l'aller.
Exactement.
Ils sont menés 3-0 au retour.
Enfin, l'an dernier, ça a été tout un festival de sous-stoche, justement. Et en plus, c'est d'autant plus important. Déjà, naturellement, le Real Madrid fait très attention en Ligue des Champions, c'est sa compétition. Mais en plus, là, où ils sont mal partis en Coupe du Roi, ils ont perdu 1-0 au match aller à domicile contre le Barça. La Liga, ça va être très compliqué. Donc, c'est vraiment la Ligue des Champions. Là, Ancelotti ne peut pas se permettre. Je vais même vous dire, aujourd'hui, vu l'ambiance autour du Real, etc., le Real ne peut pas, même pas se permettre de perdre aujourd'hui, même s'il passe. Voilà, parce qu'une défaite, ça fait tâche, toujours.
Coach.
Mais la question, c'était, est-ce qu'on croit à une surprise?
Oui.
Eh bien, on peut répondre non. Hein.
Bien sûr.
Eh bien, voilà, c'est fait.
Ah oui.
Donc, et quand
tu n'y crois pas une seconde, quoi.
Et quand je vois qu'il y a la meilleure équipe de ma chaîne, mais j'y crois
encore moins. Justement, la composition, Jeannot Rességui est bien avec nous. Salut, Jeannot.
Est-ce que vous m'entendez?
Très bien. Parfait. Bonsoir, cher Jeannot.
Bonsoir, tout le monde.
Alors, la composition.
Alaba blessé, retour de Ferland Mendy dans le groupe. Ça, c'est les infos au niveau de l'infirmerie, n'est-ce pas, mon cher Fred Hermel. Courtois dans les buts. Rudiger avec Militao pour la charnière. Nacho à gauche, Carvajal à droite. Milieu de terrain, Tchouaméni sera remplaçant. Camavinga qui enchaîne avec et avec Modric, et les trois de devant, Vinicius à gauche, Valverde à droite et Benzema avec le brassard de capitaine. Voilà pour les choix de Carlo Ancelotti. Pour ce qui est de Liverpool, on rappelle que Thiago est toujours blessé, Anderson lui est malade, il ne sera donc pas dans le groupe ce soir. Alisson dans les buts, Konaté titulaire, Gomez qui a eu quelques difficultés au match aller et sur le banc des remplaçants, Van Dijk à côté de Konaté, Alexander Arnold qui est le seul joueur sur la feuille de match, sur le coup d'un avertissement, sera dans le couloir droit, Robertson couloir gauche, Fabinho avec Diogo Jota et Milner qui aura le brassard de capitaine, Salah, Darwin Núñez et Gakpo. Comme le disait tout à l'heure Walid, c'est une équipe quand même assez offensive. Et dans la tranquillité du discours de Jürgen Klopp hier en conférence de presse, une victoire envisageable, une qualif pas à exclure.
Julien, la composition de Liverpool, justement, là aussi on n'a pas de surprise.
Si, on a une grosse surprise justement. C'est à quel point il est offensif, puisque c'est la première fois de cette saison que Gun Club décide d'aligner ses quatre attaquants, Jota, Darwin, Salah et Gakpo ensemble. On les avait vus pour la seconde période contre Bournemouth samedi. Jota était rentré à la mi-temps, était entré à la pause. Ça n'avait pas été génial, puisqu'ils n'avaient pas marqué de but en 45 minutes ensemble. Ils n'avaient pas non plus très bien combiné non plus. Et au final, ça avait été une défaite assez humiliante à Bournemouth 6 jours après avoir démoli Manchester United. Donc on va voir ce que ça va donner ce soir. On se demandait tout à l'heure à la télévision anglaise aussi qui allait jouer en pointe, qui allait jouer en deuxième attaquant. On sait que Salah sera à droite et Darwin à gauche. Donc ce sera entre Jota et Gakpo. Peut-être Jota en pointe et Gakpo juste derrière lui. Peut-être l'inverse. Peut-être beaucoup de mobilité aussi. Et beaucoup de fluidité entre les quatre de devant. C'est possible aussi. Mais c'est très très rare que Jurgen Klopp ne joue qu'avec deux milieux de terrain. Alors Jeannot l'a dit, il y a pas mal d'absents. Le milieu de terrain, de toute façon, cette année pour Liverpool, ça a été... Le gros point noir, la grosse problématique, sans que Klopp ne trouve vraiment jamais ni la bonne formule, ni la bonne dynamique non plus. Donc c'est peut-être pas étonnant non plus pour un match pareil. Il joue le tout pour le tout avec quatre attaquants et simplement deux milieux de terrain.
Bon, reste avec nous Julien, Fred également, Walid et coach à mes côtés. On va faire une pause, on va revenir sur cet avant-match. On parlera de Naples à Eintracht Francfort également tout à l'heure. Vous pouvez nous appeler au 32-16 bien sûr, participer au débat avec coach Walid, Julien et Fred Hermel. On va parler de Benzema, de Kamavinga également, titulaire ce soir. Restez avec nous, c'est Génération After sur RMC. Il est 20h14, à tout de suite.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec coach Courbis, Walid Dacherchour, Génération After jusqu'à 22h, Génération After particulier, Ligue des Champions, la fin des huitièmes de finale, retour avec les deux affiches du soir. Avant d'évoquer tout à l'heure Naples-Francfort, nous évoquions ensemble le duel Real Madrid-Liverpool. T'entends là-dessus également, mon cher Walid. Est-ce que, comme coach, tu ne crois absolument pas en une surprise ce soir, un renversement de Liverpool?
Ah, j'ai du mal à imaginer le Real Madrid en prendre 4 ce soir contre Liverpool. Tout simplement, je vois pas comment cette équipe qui a quand même une solidité défensive, le meilleur gardien au monde, voire l'un des meilleurs gardiens au monde, ça reste subjectif, mais pour moi, Thibaut Courtois, on l'a encore vu l'année dernière, ça reste une valeur sûre, même si il y a eu cette petite erreur à l'aller. Voilà, je pense que cette équipe du Real Madrid, quand elle est en Ligue des Champions, elle arrive à avoir cette solidité-là, même si elle s'est fait peur sur les dernières années, même si il peut avoir peut-être un scénario, Liverpool peut ouvrir le score, pourquoi pas. Maintenant, la marge qu'ils ont, elle est assez énorme, et je serais très 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 surpris que le Real Madrid prenne une remontada, pour employer un terme espagnol.
En plus de ça, donc avec tout ce qu'on a entendu avant qu'on prenne la parole, c'est que le Real Madrid, ben, tu le connais le dicton, hein, un homme averti en vaut deux. Mais ce soir ils vont jouer avec 22 joueurs, le Real Madrid, compte tenu de ce qui leur est arrivé par le passé. On se rappelle de la finale avec le 3-0 qui est devenu 3-3 et tout. Et là maintenant c'est à Madrid le match retour contre une équipe de Liverpool qui après 60 minutes d'effort appelle les pompiers. Donc qu'est-ce que tu veux être inquiet d'un miracle?
La dernière fois que le Real Madrid en a pris 4 en Ligue des Champions en phase d'élimination, je pense que c'est l'Ajax qui les élimine en mettant un 4-1 assez incroyable. Il avait fallu
il y a 40 ans.
C'était 2019 il me semble. Ouais, 2019.
Donc je me rappelle d'un autre match avec.
Mais oui, avec Tadić, Ziyech, etc. Donc il va falloir faire ce style de match pour Liverpool. Est-ce que Liverpool en est capable? Moi, je ne pense pas. Liverpool en a mis 7 contre Manchester United, mais on a bien vu que cette semaine contre Bournemouth, ils sont revenus un petit peu sur terre. Donc voilà, globalement, je peux pas l'imaginer. Même si avec le football, on est sûr de rien. Et surtout en ce moment, quand on voit ce qui peut se passer.
Ah, maintenant. Attention avec les erreurs d'arbitrage qu'on a vues hier. Si ils expulsent le gardien, s'il y a deux pénalties qui n'y sont pas, s'il y a des mains qui ne sont pas visibles. Ah oui, c'est sûr que là on était impuissants.
Et puis avec la composition d'équipe de Liverpool, on est quand même sur un 4-2-4 avec Núñez, Salah, Jota et Rarpo. le milieu de terrain, il va falloir quand même que James Milner et Fabinho soient très très solides, parce que dans les transitions du Real Madrid, je pense qu'ils vont avoir des espaces et ils aiment ça. Ils aiment les espaces.
Non, ils vont tenter le coup dans les 30 premières minutes.
De
démarrer à 200 à l'heure, ok. Ils vont peut-être ouvrir le score, mais où là? Les 93 minutes, elles sont longues.
Fred, comment va Karim Benzema? On a eu un doute ce week-end. Il n'était pas aligné contre l'Espagnol Barcelone. Ancelotti a dit qu'il était à 100%.
Benzema est un joueur, n'est plus un joueur aujourd'hui à 2 matchs par semaine. Voilà, il a eu 35 ans au mois de décembre, il y a des petits pépins physiques qui s'accumulent. Ancelotti, enfin, j'ai du mal à penser qu'il soit à 100% alors qu'il n'a pas joué ce week-end. Voilà, donc, mais Karim Benzema n'a pas besoin d'être à 100% pour être très utile dans l'équipe. Parce que dans le jeu, il a toujours cette magie qu'on lui connaît, même si je trouve qu'il a quand même plutôt baissé de niveau et que cette saison n'est en aucun point comparable à celle exceptionnelle de la saison dernière. Ça c'est clair. Donc voilà, c'est important d'avoir Karim Benzema, surtout parce qu'il n'y a pas d'autre numéro 9. Hein. Sinon, c'est Rodrigo qui joue en
mais
numéro 9.
Le Benzema de la saison dernière, c'est la... Le pic de la carrière de Benzema la saison dernière, quand on revoit ce qui se passe depuis les huitièmes de finale, quand on voit ce qui se passe en championnat, autant dans son comportement que dans ce qu'il a fait personnellement, dans ce qu'il a fait collectivement, mais c'est tout simplement.
Mais c'est impossible à imiter.
Impossible
donc,
de renouveler voilà. Ça.
Et puis c'est impossible. Et puis c'est plutôt logique avec les sollicitations qu'il a eues après le Ballon d'Or.
Ouais,
moi
sûr,
je me rappelle des trois mois qui ont précédé le Ballon d'Or de Modric, c'était aussi un peu comme ça. Il y a aussi la Coupe du Monde, les blessures à répétition, et puis surtout, il faut pas écarter le fait que Karim Benzema pour l'instant n'est pas à son meilleur niveau. Mais même en n'étant pas à son meilleur niveau, il met quand même un doublé à l'aller. Faut pas l'oublier.
Et que non, mais surtout c'est dans le jeu en fait. Oui. C'est le liant que lui apporte simplement par sa simple manière de se mouvoir sur un terrain. C'est tellement intelligent que ça guide les autres.
Bien sûr.
C'est-à-dire que Vinicius, il est meilleur quand il y a Benzema en référence.
Bien évidemment.
Voilà. Donc et surtout, il provoque beaucoup de 1-2, etc. Ce qui fait que c'est très difficile pour les adversaires de défendre. Donc non, cette équipe, elle est très belle ce soir. Et je suis quasiment certain que le Real va se qualifier. Par contre, je crois à la possibilité de se faire peur. Je crois, comme on l'a vu contre l'Espagnol samedi, que le Real peut encaisser un but rapidement. Parce que c'est une équipe qui a c'est ce genre de lapsus, ce genre de fragilité. Donc c'est-à-dire que même que au bout d'un quart d'heure, Liverpool gagne 2-0, c'est possible. Après, je ne vois pas cette équipe-là ne pas marquer. C'est ça, cette équipe du Real ne pas marquer. Et à partir du moment où tu marques, bah, c'est mission impossible pour Liverpool. Quoi. Alors, en tout cas, ce qui est génial, c'est que vu les deux équipes ce soir, bah, on va prendre du plaisir.
On risque de voir un bon match.
Si à 0-0, j'arrête. Hein,
ouais.
Merci Fredo, on te retrouve pour le débrief hein, tout à l'heure avec Gilbert.
Un tout petit truc quand même.
Vas-y.
Salut, moi, je suis un peu surpris quand même de voir Camavinga milieu défensif ce soir. Moi, je trouve que, rappelez-vous à l'aller, le premier but, c'est une erreur de Camavinga. Je trouve que Camavinga, quand il est dans un rôle plus défensif, qu'il soit latéral ou milieu défensif, c'est beaucoup plus compliqué pour l'équipe. C'est un joueur qui est mieux quand il est dans le rôle de cross.
Tu trouves, toi?
Bah tu regardes, mais de toute façon tu vois les pertes de balles.
Oui, il fait quelque...
etc.
Oui, mais après le problème de Camavinga, c'est qu'il a fait des erreurs et t'as raison d'insister là-dessus. Mais ces matchs quand même, dans la globalité, c'est souvent quand même intéressant. Même en dépannant Fernand Mendy sur le côté gauche, le match contre l'Atlético.
C'est pas son métier.
Oui, il fait
quand
encore des erreurs, mais ça reste un jeune joueur. Mais sinon son travail, moi je trouve que dans son travail global, il y a quand même pas mal de choses à tirer de positif. Et Ancelotti l'a dit en conférence de presse notamment hier, il disait qu'aujourd'hui c'était un élément quand même très très important. Important de par sa polyvalence et de par son.
Il est incontournable aujourd'hui, il le sera dans le futur, c'est ce qu'a dit Ancelotti.
Oui, mais pourtant,
en début de saison, il avait beaucoup critiqué Ancelotti.
Vous ne m'empêcherez pas de penser que Camavinga reste une arme essentielle quand il entre en deuxième période, quand ça va mal.
Ouais.
Et là, tu te prives de ce joker-là. Peut-être que le Real, peut-être que finalement Ancelotti pense qu'il n'en aura pas besoin.
Qui aura sur le banc?
Comment?
Sur le banc du Real?
Asensio.
Il y a quand même.
Voilà,
c'est Ballos.
Non, mais certes, il y a Tchouaméni, bien sûr. Rappelez-vous ce qui s'est passé contre le PSG. Le côté dingue qu'il a quand il entre à l'heure de jeu, qu'il apporte cette verticalité, cette puissance, etc.
Cette fougue.
Cette fougue, là, il n'y a pas d'autre que lui, en fait.
Fred, à tout à l'heure pour le début de ce match. Julien, tu restes avec nous dans un instant avec Apollo Breitner. On va revenir sur le City Leipzig hier soir. On va parler avec coach Walid et également Apollo Breitner qui va nous rejoindre. Hein. Nouvelle star des réseaux, nouvelle star du PAF, du paysage audiovisuel français qui va faire son entrée dans quelques minutes.
Est-ce qu'il a compris ce qu'était Génération After, Apollo?
On va lui expliquer s'il n'a pas compris. Reste avec nous dans Génération After. Vous écoutez RMC, il est 20h24. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Coach Cobis, Walid Acharchour, Julien Laurent est toujours avec nous et j'accueille Paulo Breitner. Bonsoir Paulo.
Bonsoir mon cher Nico, bonsoir tout le monde.
Tout à l'heure, on parlera bien sûr de l'autre huitième de finale retour hein, qu'on va commenter ce soir entre le Napoli et l'Eintracht Francfort. Je veux d'abord qu'on revienne un instant sur le match d'hier soir qui a donc opposé Manchester City à Leipzig parce qu'il fait encore parler aujourd'hui pour le quintuplé d'Erling Haaland bien sûr, mais aussi pour la prestation de Zlatko Vincic, arbitre slovène de ce match, lâché par sa VAR, ou alors il a mal utilisé, hein, qui n'a pas vu la grosse faute, notamment d'Ederson sur Werner, et qui a accordé un pénalty ridicule à City. Polo, bon, tu t'es un peu lâché hier, hein, ça a beaucoup fait réagir ici. Hein. Je pense que Julien, on en a parlé en Angleterre de la saillie de Polo ou pas sur RMC?
Sur les infos à 18h là, sur la BBC, c'était tête d'info. Il n'y avait que Polo, en plus il aime la BBC, donc il nous l'a dit l'autre jour, donc c'était effectivement.
J'espère qu'ils ont traduit, qu'ils ont mis des bips hein, parfois, parce que.
Surtout son imitation sur les fans puceaux de la Première Ligue. Là,
on peut le dire, mais je pense que c'est all time hein, dans l'histoire de l'after.
Comme oui, tirade, ça va faire date,
comme
bien
tirade,
sûr.
Ça, sera, ouais,
ça fait date. Je pense que les jingles ont déjà été découpés.
Moi, ce que j'ai préféré, c'est le Direct Studio. C'est quoi ce Direct Studio?
Mais c'est très bien ce que c'est en plus, Polo. Il fait semblant, il fait très bien. Tous les soirs, on en parle.
Non, c'est le nom d'une radio libre des années 80 dans le Cantal.
Mais là, c'est juste une plateforme avec des messages, Polo.
Sacré Polo.
Bon, mon cher Polo, tu as reçu beaucoup d'appels, j'imagine, aujourd'hui.
J'en ai surtout reçu un.
Je sais bien. Soigne ton langage, mon cher Polo, mais on a adoré, voilà, évidemment. Voilà, voilà. Alors,
l'institution RMC m'a tapé sur.
Est-ce que les médias allemands en ont parlé aujourd'hui, abondamment, mon cher Polo? Ou pas du tout? Pas de toi.
Oui, bien sûr, heureusement. Le penalty, oui. En fait, si tu veux, c'est une forme de ras-le-bol. C'est pas lié, évidemment, tel que je peux le voir ou le lire parfois à la prestation de City, etc. C'est ce ras-le-bol qui est constant et en constante augmentation sur l'utilisation de cette nouvelle technologie. Alors, ça va de différentes façons. Tu as Lukas Podolski, l'ancien international allemand, qui s'est exprimé en insultant carrément la technologie. Tu as Mats Hummels, qui avait fait déjà une phrase en disant mais il faut absolument qu'on change ces règles sur les mains parce que on va dans la mauvaise direction. Et tu as sur les plateaux télé par exemple l'ancien champion du monde Matthias Sammer qui lui a été en rage parce qu'il dit mais la dernière fois c'était Chelsea, là c'est Manchester City, tous les week-ends en Bundesliga c'est pareil, il veut plus en entendre parler. Et je dirais à la rigueur au-delà de ces différentes personnes comme Roland, Walid, nous qui pouvons être d'accord ou pas d'accord sur ces questions-là, moi ce qui m'intéresse c'est les arbitres en Allemagne. Et les anciens arbitres internationaux, ils trouvent que c'est complètement délirant ce qui se passe en ce moment, que c'est une forme d'abaissement du niveau moyen des arbitres en Europe, etc., depuis l'installation de cette nouvelle technologie. Il y a notamment Michael Greffeux, qui est ancien international allemand, qui a été élu en Allemagne le meilleur arbitre en 2017, qui lui ne comprend pas toutes les décisions qui sont prises en ce moment, en dépit du bon sens, par les arbitres, quand ils voient l'évolution de cette technologie. Et donc, si tu veux, il y a un ras-le-bol global qui se fait sentir, et encore une fois c'est pas lié à la performance de City, parce qu'évidemment Manchester City était largement supérieur à Leipzig. C'est juste que sur un fait de jeu comme ça, et ben alors que Leipzig est officiellement pas encore éliminé, bah tu te retrouves avec un penalty contre toi, etc. Voilà.
Julien, toi en Angleterre, après je donne la parole à coach évidemment, est-ce que c'est un sujet ou pas? On est passé à autre chose, on est resté sur le quintuplé d'Erling Haaland?
Ouais, pas du tout. Mais même hier, hein, ils en ont parlé. On a forcément parlé un petit peu en Angleterre, que ce soit à la télé, à la radio, même dans les journaux, un tout petit peu. Mais on parle que d'Haaland, du quintuplé, de la décision de Guardiola de l'avoir fait sortir. Si c'était la bonne idée, pas bonne idée. Pourquoi le club qui brief un petit peu aujourd'hui en disant que c'était prévu, qu'il voulait pas qu'il se blesse, etc. Mais c'est vrai que l'arbitrage, ça passe très très loin derrière la démonstration d'Erling Haaland.
Coach.
Ben, si tu veux, j'ai une habitude, on a tous des qualités et des défauts. Moi, j'ai une habitude, je me mets un petit peu à la place des gens dans certaines situations. Et j'ai eu la chance et le plaisir d'être entraîneur. Aujourd'hui, je vous fais une confidence, mais je crois que je l'ai déjà dit. Je suis très heureux de ne plus être sur le banc parce que j'aurais vraisemblablement dérapé. Alors qu'en 30 ans, j'ai peut-être dérapé une fois en 30 ans. Donc quand je vois qu'on s'occupe de savoir si Guardiola aurait dû sortir ou pas donc le monstre là-devant, et que à 2-0, et ce 2-0 avec un pénalty qui est un pénalty, je dirais pas imaginaire, mais là, si on siffle pénalty là, il y en a 50 par match de pénalty. Eh bien, moi, j'aurais bien voulu voir ce gardien expulsé, et là peut-être il y aurait eu un joueur avec le gardien remplaçant qui rentre, qui serait sorti, peut-être ça aurait été Haaland, hein, puisqu'il était discuté avant le match, il y avait les pour et les contre, et on ne serait pas en train de parler de, que s'il aurait dû marquer le sixième ou pas, parce qu'à 2-0, même si à 11 contre 11, évidemment, je suis d'accord avec tout ce que j'entends, que Manchester City est meilleur que Leipzig, à 11 contre 11, mais à 2-0 déjà avec un pénalty tordu, si le gardien est expulsé, eh bien j'aurais voulu voir ce match-là, moi, devant ma télé, à 11 contre 10. Et voilà. Et ça, c'est tout simplement insupportable. Je me mets à la place de l'entraîneur que j'aurais pu être dans un match comme ça, eh bien je préfère pas, parce que j'aurais certainement déconné.
Bon, Walid.
Non mais tout a été dit. Et clairement, hier, l'enchaînement des décisions... pour Leipzig, pour moi c'est
on a rarement vu aussi grossier que ça.
Ah mais pour moi c'est
historique même.
C'est un enfumage en Mondiovision quoi. Clairement aujourd'hui ce qui s'est passé hier.
Ouais mais excuse-moi de te couper.
Un fumage de quoi? Mais City ils sont meilleurs. Mais pour le
alors tu m'aurais fait plaisir de poser une question à Guardiola. C'est mon biquet. Tu disais en cas d'expulsion du gardien, c'était Haaland qui sortait ou pas?
Mais déjà il est pas dernier défenseur le gardien. Il va pas être expulsé alors qu'il a un joueur qui est juste derrière lui de City, un joueur qui est juste à côté de lui de City, donc je pense qu'il aurait pris jaune, il y avait coup franc, c'est sûr, mais je pense pas qu'il aurait été expulsé.
Et le pénalty, Julien?
Non, mais d'accord, mais avant le pénalty, il y a deux grosses occasions pour City déjà. Faut arrêter de me faire croire que c'est l'arbitrage qui a fait gagner City.
Non, on peut dissocier les deux, hein. Personne n'a dit ça. On a dit qu'aujourd'hui.
Tu me dis c'est un enfumage.
Ah bah oui.
C'est pas un enfumage.
À partir du moment où, à 0-0, dans un match aussi important, en 8e de finale de Ligue des Champions, qu'une équipe qui arrive contre Manchester City.
Non, mais ça, Wally, c'est le respect très bête et très dissipé de la règle en réalité.
Mais d'accord, ok, mais pour moi, encore une fois.
On peut discuter la règle, mais ça, on peut le faire.
Non, mais en fait, il y a deux débats.
De l'ouverture d'un score.
Si le débat c'est de dire que Manchester City aurait gagné cette rencontre quoi qu'il arrive, je pense qu'ils auraient gagné la rencontre quoi qu'il arrive, même plutôt largement, donc je suis d'accord avec Julien. Maintenant la réalité, c'est pas parce qu'on a dit ça qu'il faut accepter le fait que le City a eu des décisions favorables, très favorables.
Ça, je suis d'accord avec toi, mais
tout simplement.
Enfumage. S'il gagne 1-0 sur ce penalty là, tu me dis enfumage, je te dis d'accord, là c'est normal.
Mais après, Julien, tu sais très bien que dans le football de haut niveau, l'importance d'une ouverture du score, est-ce que ça peut te mettre psychologiquement? Tu sais très bien que c'est pas le même match derrière.
En plus, de 1-0 à 7-0,
Julien,
c'est
Julien,
pas.
Julien, en plus, surtout que
moi, je suis un grand fan de Manchester City, mais tu connais Manchester City, notamment en Ligue des Champions, le facteur mental et psychologique. Plus le match, court à 0-0, plus il commence un peu à cogiter, etc. Donc, tu sais très bien que psychologiquement, sur ce type de match, bon, on l'a vu avec Ederson. Ouais,
bien hein, sûr, ça les a aidés.
Et d'après le règlement que je ne connais peut-être pas complètement, si par exemple un défenseur, dernier défenseur ou pas, fait la même faute que ce qu'a fait le gardien, tu es sûr qu'il prend seulement un jaune?
Exactement.
Et le pire, c'est que Werner prend un jaune. C'est ça le pire dans l'histoire.
Ouais, pour contestation, c'est
extraordinaire.
C'est un moment absurde. Absolument
c'est trop loin.
Absurde.
Mais je ne suis pas persuadé que Darkhan soit expulsé, non? Mais c'est vrai que l'arbitrage a été mauvais. Mais après, je trouve ça quand même un peu gros de dire, de tout remettre sur l'arbitrage.
Mais personne ne remet tout sur l'arbitrage. On dit juste que.
Mais si, tu me dis enfumage. Il y a une erreur de l'arbitre qui a coûté cher, effectivement. Mais Julien, voilà.
Les 25 premières minutes sont pour City. City a deux énormes occasions. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais dans un rendez-vous aussi important, je ne vais pas répéter, mais tu sais très très bien l'importance d'être
joué sur le score. Je suis d'accord avec toi.
N'importe
quel. C'est plus sur le mot enfumage, Walid, que j'avais du mal.
Tu peux enlever. Petit scandale. Non, si ça s'appelle.
Non, mais si. Non, mais si, ça les a aidés. Bien sûr, ça les a aidés.
C'est plus poli quand c'est plus poli.
Ah, voilà, bah, bien sûr, ça les a aidés.
Belle leçon de politesse de la part de
Polo. Ah oui, bah oui, là, t'inquiète pas.
Quel bon élève, ce Polo. Un appel et tout de suite, il rentre dans les rangs.
Je vais bientôt prendre ma carte chez les Républicains, là.
Quelle discipline.
Ah oui.
Maintenant, il adore le 21e siècle.
J'adore le 21e siècle. C'est fabuleux.
Maintenant, ça n'enlève pas la supériorité de City, d'Erling Haaland.
Bon, les gars, je veux qu'on parle de la VAR quand même, Coach.
Que City soit supérieur à Leipzig, mais je suis le premier à le dire. Mais j'aurais voulu voir, par curiosité, à 11h10, s'ils auraient été supérieurs.
Bon. Coach, tout à l'heure en préambule, en début d'émission, tu voulais nous parler de l'assistance vidéo. Tu la rejettes pas en bloc, la VAR.
Non,
je fais
un bilan. Alors c'est pas le meilleur bilan que l'on peut faire. C'est le mien. Je me mets aussi à une certaine époque si j'avais pu être sur le banc avec la VAR. Je crois que j'aurais protesté très très souvent. Ça c'est sûr. Et je me dis maintenant, finalement, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Je crois que c'est une très bonne chose en ce qui concerne les hors-jeux. Dernièrement, je discutais avec certaines personnes, donc un garçon passionné et très compétent qui est Greg Lorenzi à Brest, donc qui reste une personne avec qui j'échange des fois des idées de football, et lui aussi pense que le hors-jeu, ok. Et en ce qui concerne après les pénalties, sincèrement, je ne sais plus quand c'est qu'il y a pénalty, quand c'est qu'il n'y a pas pénalty. Donc je pense que si on fait un bilan aujourd'hui, on se dit, allez, quand on a des situations où on ne sait plus qui c'est qui arbitre, quand on voit des arbitres avec leur sifflet, ben ne pas décider eux, alors que moi j'avais toujours pensé au départ que la VAR allait aider l'arbitre, mais que l'arbitre avec son sifflet, c'était lui le patron et qui pouvait se servir de la VAR pour éviter de faire des conneries, même si après tu es obligé d'en faire quelques-unes. Donc le hors-jeu, ok. Et même si des fois il faut attendre, même si des fois ça se joue à 10 cm, eh ben c'est les progrès que l'on peut faire. Mais en ce qui concerne les pénalties, eh ben pour moi, les tirs au but, c'est l'arbitre qui décide. Et si par exemple on lui signale, tiens, va quand même voir, c'est très intéressant de le voir. Eh ben tu te déplaces, tu vas voir et tu regardes si tu t'es trompé ou pas en sifflant ce pénalty. C'est comme ça que je vois là-bas. Mais voir. Par exemple, un pénalty comme hier, ne pas être annulé par la VAR, et au contraire, l'arbitre, tout joyeux, là. Enfin, bon, j'allais déraper moi aussi, avec une grossièreté. Et qui a l'air d'un stupide. Il est tout content, il a sifflé son pénalty, il montre avec le doigt qu'il y a pénalty. Mais là, tu montres vraiment qu'il y a une évolution, mais qui est une évolution compliquée. Et pour moi, je me pose la question. Est-ce qu'il faut continuer ou pas? Pour les hors-jeux, oui. Pour le reste, je pense pas.
Julien?
Ce que j'allais dire, c'est que entre le match de Chelsea-Dortmund d'il y a une semaine, et celui-là, ça fait quand même deux gros scandales. Voilà, on va dire scandale, on est tous d'accord, petit ou grand scandale. Que Jude Bellingham dise que c'était une blague absolue, la façon dont le penalty avait été surtout retiré pour Chelsea lors du match contre Dortmund hier avec Leipzig aussi. Quoi qu'il arrive, il va falloir qu'il règle à un moment ce problème des mains. Hier, bien sûr que ça frôle le bras de Henrich, mais à partir du moment où le ballon ne change pas de direction, par exemple, n'est pas complètement freiné ou arrêté par la main, à un moment, est-ce que tu as vraiment besoin de siffler un penalty pareil? Peu importe le match, peu importe, mais encore plus dans un match comme ça à grosse importance. Il va falloir clarifier tout ça, et l'IFAB peut m'inventer des nouveaux trucs à droite, à gauche, mais à un moment des hors-jeux semi-automatiques, mais à un moment c'est ces décisions-là qui comptent le plus.
Polo.
Mais moi, je pense qu'il y a un autre problème, c'est la fabrique du consentement. C'est-à-dire qu'on est en train de s'habituer, les nouvelles générations sont en train de s'habituer à la VAR, avec ses défauts. Et en fait, le problème, c'est que, imaginons que, pour une raison très simple, 2023-2024, on annule la VAR partout, et ben, il va y avoir des excès partout sur le terrain, et là, on va dire, mais vous voyez que c'était mieux avec la VAR, etc. C'est-à-dire
Absolument.
Et ça, c'est terrible, c'est ce qu'on appelle la fabrique du consentement. Donc, on nous a expliqué depuis le début que cette technologie allait grandement améliorer le football. Alors, ils ont sorti des statistiques qui, d'ailleurs, il n'y a qu'eux qui les comprennent, parce que moi, j'ai toujours pas compris le pourquoi du comment. Mais c'est très compliqué, parce que c'est justement dans ces moments-là que, comme le disait Bertolt Brecht, c'est la bête monde qui sort du ventre. Ouais, c'est-à-dire que c'est, tu sais jamais ce que ça va donner.
Polo,
et oui.
Par exemple, qu'on puisse se servir de cette technologie pour éviter un but de la main, des choses qui sont tout simplement horribles. Oui, extraordinaire pour celui qui en bénéficie, mais horrible pour l'autre. Moi, je pense que là, allez, le progrès arrive, on fait avec. Mais déconnons pas, c'est pas quand même maintenant ceux du camion ou je sais même plus s'ils sont encore dans un camion qui décide à la place de l'arbitre. Mmh. L'arbitre, ça doit rester celui qui décide, aidé par la VAR.
Tout à fait, mon cher coach. Polo, t'as fini?
Oui, oui. Bon, voilà. La fabrique du consentement, c'est
mais qui dépasse le cadre du football, hein, mon cher, évidemment. Le cinéma, la consommation, tout ça. Quoi.
Oui, ça, de toute façon,
même des gens qui disent aujourd'hui que leur film préféré, c'est Yamakasi. Donc, tu vois.
Arrête, non, ça va.
Si,
c'est pas possible.
On a
le droit. Je vais redevenir vulgaire. Là,
on a le droit, mais Yamakasi, c'est subjectif, non?
Allez, mais oui, mais dire que ton film, c'est le meilleur film de tous les temps.
Non, mon meilleur film, c'est subjectif. Le cinéma, c'est des émotions, monsieur Jamin.
Oh là. Alors,
chacun ses émotions.
J'adorerais mettre Polo et Walid devant un film ensemble.
Non, mais après, on peut pas là.
Et filmer ce moment-là, quoi.
Mais encore une fois, je respecte les goûts de Polo.
C'est pas une question de respecter les goûts.
Bah, on va partir les goûts, les couleurs dans l'after, les gars. Je vais avoir une demi-heure.
Mais j'ai le droit d'aimer Yamakasi.
Mais je suis sûr que je viens aussi aimer Yamakasi d'ailleurs.
Yamakasi, c'est un film générationnel. C'est un film générationnel pour moi.
Voilà. Polo, tu restes avec nous, Julien. Tu seras là pour le débrief tout à l'heure, bien sûr, de ce duel entre le Real Madrid et Liverpool.
Nico, tu fais quand même tout.
On espère passionnant.
Tu fais tout pour que Polo me déteste.
Mais il t'adore, Polo.
Non.
J'aime beaucoup Walid, si.
Mais si, il t'adore. Surtout sur le foot, en fait, je pense.
Mais non, le pire, j'aime beaucoup Walid.
Le pire, j'aime beaucoup Walid.
Excuse-moi parfois d'avoir envie de jouer le grand-père, quoi.
C'est pas faux. C'est
oui.
Pas faux.
Parce que le goût, ça s'éduque, mon cher Walid.
Bah, pourquoi
exactement.
Pas
et
en cinéma, éduquez-moi.
Allez, on revient dans un instant, on va reparler football surtout, et de l'autre huitième de finale retour de Ligue des Champions entre le Napoli et l'Eintracht Francfort. A tout de suite dans Génération After.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Coach Courbis et Walid Acherchour, Génération After, avec en fil rouge, bien sûr, la fin des huitièmes de finale retour de Ligue des Champions. On a parlé de Real Liverpool. On parle maintenant de Napoli, Eintracht Francfort, avec Johan Crochet. Bonsoir, mon cher Johan.
Bonsoir à toutes et à tous.
Le Napoli, hein, qui n'a jamais été aussi proche de jouer enfin un quart de finale de Ligue des Champions. Ça n'est jamais arrivé dans son histoire. 2-0 à l'aller à Francfort.
Ah bah, moi, je le vois gagnant.
De la Ligue des Champions.
Ah, bah oui.
Moi j'aimerais bien. Je les vois pas, mais j'aimerais bien.
Son coach, ça fait un mois qu'il le dit déjà.
Ouais. Eh ben écoute, je
vais pas se greffer sur une forme.
Je vais pas changer ce soir.
Mais Johan, c'est son année là. Il joue pour une troisième place en quart de finale.
Après
les deux Milan.
L'Inter et le Milan.
Et c'est fou.
Le Napoli.
C'est fou parce que j'en discutais avec Sofiane ce matin à Winamax.
Sofiane Zouaoui.
Sofiane Zouaoui de Génération After. C'est peut-être l'année la plus faible en termes de jeu sur les dernières années en Serie A. Pour moi en tout cas, je sais pas si Johan partage cet avis, et ils vont, c'est l'année où ils vont en mettre 3. Peut-être que le travail et l'expérience qu'ils ont eu sur les dernières années va permettre à ces trois équipes d'y aller. Mais c'est fou de voir déjà les 2000 ans plus le Napoli.
Ah oui.
C'est...
Ah oui. Ouais.
Alors qu'on décrivait une Serie A chancelante et sur le déclin. Bon, mon cher Johan, justement, il en parle à l'instant. On va d'abord donner les compos avant de développer la saison du Napoli. Avec toi également, Polo, tu es toujours là pour parler de l'Eintracht Francfort. On n'y croit quasiment plus du tout, évidemment. Tu m'as dit une chance sur 100 éventuellement avec les dieux du foot. On va en parler dans quelques secondes.
Surtout qu'il y a des absents.
Hein. D'abord, les compositions. Ouais. Aurélien Tercin, commentaire de ce match. Salut Aurélien.
Salut Nico. Bonsoir à tous.
Salut Aurélien.
Alors, du côté du Napoli, du grand classique avec Alex Meret dans les cages, Kim Min-jae et Amir Rahmani dans la charnière. À droite, le capitaine Di Lorenzo. À gauche, Mario Rui. Un milieu de terrain, Lobotka, Zielinski, Franck Anguissa. Et puis devant, évidemment, Gvichak, Varadzrelia, Victor Osimhen et Matteo Politano qui remplace Irving Lozano, le Mexicain qui était titulaire lors du match aller. Et côté Francfort, c'est évidemment très compliqué sans Randal Kolo Muani suspendu, sans Jesper Lindström, le Suédois qui a marqué
le
notamment
Danois,
en Ligue des Champions. Pardon ?
Le Danois, non ?
Ouais, j'ai dit Suédois, pardon, ouais. Oui, exactement. Il est absent, donc Kevin Trapp dans les cages, Evan Ndika, Tuta dans l'axe de la défense, Aurelio Buta à droite, Christopher Lenz à gauche. On change d'ailleurs un petit peu de système du côté de Francfort avec un peu plus de poids offensif. Mario Götze, milieu offensif, avec derrière lui le capitaine Sébastien Rodeux et Djibril Sow. Et puis devant, Raphaël Boré, le Colombien, avec à sa droite le jeune Ansgar Knauf, prêté par Dortmund à l'Eintracht Francfort. Et puis à gauche, Daichi Kamada, le japonais.
Tout à l'heure, moi, je suis rien pour le coup d'envoi de ce match. 21h. D'abord, messieurs, Johan Polo, un mot sur les images terribles qu'on a vues encore aujourd'hui à Naples. On en avait parlé lundi soir dans l'after. Je rappelle que les supporters de l'Eintracht ne peuvent pas assister au match dans le stade. En revanche, ils étaient bien dans les rues de Naples. Ils se sont battus simplement avec des supporters de Napoli, avec les forces de l'ordre. Mon cher Johan, tu as vu les images aussi, évidemment.
Ouais, évidemment, ça a tourné sur les chaînes d'information sportive en Italie, évidemment. Je ne sais pas si Philippe, auditeur et supporter de Francfort, veut rappeler ce soir, mais on lui rappellera ce qu'on disait lundi sur ce qui s'était passé déjà à Rome, sur pourquoi les supporters de Francfort n'étaient pas autorisés à venir à Naples. Et ils sont venus quand même à 600. Alors, il y en avait 400, entre 400 et 500 à Rome qui avaient foutu le bazar, pour rester poli, en 2018. Mais il y en avait 600 aujourd'hui qui ont fait n'importe quoi. Et on a assisté à des scènes de guérilla urbaine, tout simplement, avec des voitures brûlées, des voitures vandalisées, des vitrines vandalisées, tout ce qu'on aime voir absolument dans les déplacements de supporters en Europe. C'est absolument honteux, c'est incroyable. Et quand j'entends Séphérine dire oui, faut sanctionner l'Italie, c'est pas normal que les supporters puissent pas se déplacer, moi je serais le maire de Naples et la préfecture de Naples, je dirais, j'imprimerais la déclaration de Séphérine, je ferais un petit courrier à l'UEFA, j'envoierais la facture de tous les dégâts qui ont été causés, puis je dirais à régler sous 60 jours, merci beaucoup, au revoir. Parce que c'est bien gentil, mais si Seferin il veut que des matchs à risque, où on sait que des centaines de débiles vont débarquer dans les villes européennes et faire n'importe quoi, bah à ce moment-là, l'UEFA paye. Voilà, paye la sécurité.
Mais c'est horrible d'entendre ça.
C'est terrible, moi je trouve les images sont terribles, parce que pour moi le football européen c'est avec des supporters, ça fait partie de l'expérience. Moi j'ai fait des déplacements en Europe sur des matchs européens, j'ai adoré ça, l'ambiance est extraordinaire normalement, mais quand on a affaire à non pas 5 ou 10 abrutis qui sont souvent difficiles à contrôler, à identifier, etc. Là, quand on en a 600, c'est un petit peu différent.
Polo, rappelle-nous qui sont les supporters, certains supporters, bien sûr, de l'Eintracht Francfort.
Oui, parce que j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas que les supporters de Francfort dans ce qui se passait en ce moment à Naples, ou qui s'est passé à Naples. Apparemment, il y a aussi des supporters de l'Atalanta qui sont présents, je ne sais pas pourquoi.
Ils sont jumelés avec Francfort.
Oui, ils sont jumelés avec Francfort, donc il ne faut pas dire que c'est que les supporters de Francfort. Et puis la notion de supporter, c'est c'est compliqué de dire exactement ça, parce que moi je sais même pas si ces personnes qui viennent sont membres de l'association. Je rappelle quand même, je vais pas défendre le club de Francfort, mais si tu veux, moi ce que je trouve toujours, c'est qu'on attend du club toutes les solutions. Et moi j'ai un problème avec ça, parce que le président de Francfort, Peter Fischer, est quelqu'un qui a reçu un prix l'année dernière parce qu'il se bat contre l'extrême droite, il se bat contre l'antisémitisme, il se bat contre le racisme à longueur de temps. Il vire lui-même lorsqu'il y avait cette finale l'année dernière, contre les Glasgow Rangers en finale de l'UEFA, il avait fait un meeting où il discutait, il y avait des bouffons, je vais dire ça comme ça pour pas être vulgaire, qui étaient là et il voulait les virer directement de l'association parce qu'il voulait plus entendre ce genre de discours, etc. Donc qu'il y a du travail à faire au niveau de Francfort, c'est une chose, mais moi je pense que c'est une vraie résurgence de la violence dans le football qui dépasse le cadre juste du cadre de Francfort. Parce que, et puis il y a aussi le problème des images, c'est-à-dire là on se rend compte que c'est Francfort, que c'est une grosse ambiance en Allemagne. Lorsque ça se passe en 3e ou 4e division dans l'ex-RDA, personne n'en parle. Mais il se passe exactement la même chose. Sauf que ça reste en Allemagne. Il se fait qu'en ce moment.
Je me rappelle quand même rapidement du Nice-Cologne en début de saison, en Ligue Europa Conférence.
Oui, mais il n'y avait pas que des supporters de Cologne.
Certains supporters, anciens supporters du PSG aussi.
Voilà, exactement. Il y a beaucoup plus.
Il y a des problèmes en Italie, c'est pas que allemand.
Tout à fait.
Et moi, ce que je constate aussi, et ça, c'est. Là, par contre, c'est un problème purement allemand, c'est que et c'est ce qui s'est passé l'année dernière, ils ont tous adoré en Allemagne revoir ces anciens clubs en Europe, de Francfort évidemment, de Cologne. C'est pas Fribourg, c'est pas l'Union Berlin, c'est pas des petits clubs entre guillemets, là c'est des gros mastodontes du football européen avec une longue histoire qui ont un petit peu disparu et qui reviennent. Et je dis toujours ça, même si c'est pas une excuse, 1% d'idiots de 50 000 personnes dans un stade, c'est toujours plus que 1% d'idiots de 10 000 personnes dans un stade. Et le problème, c'est que on se déplace énormément, parce que le supporterisme en Allemagne est très important. Il y a un énorme travail fait par la Ligue allemande pour réguler tout ça, pour éduquer entre guillemets les supporters, etc. Mais il se fait qu'à peu près la moitié du supporterisme allemand ne veut pas rentrer dans ces codes-là. Et c'est en fait c'est ces moitiés de supporters d'associations, mais qui peuvent très bien ne pas être violentes, c'est pas la question. On ne sait pas d'où ça vient, on sait qu'il y a une résurgence d'extrême droite, l'extrême gauche évidemment est aussi présente dans certains cas. Il y a des choses qui se passent, qui sont aujourd'hui difficiles difficilement quantifiable. Ce que je constate, c'est que c'est quand tu analyses politiquement ce qui se passe en Europe, et ben tu vois que cette résurgence, elle est aussi présente dans le football. Et à la rigueur, je veux dire, et c'est encore une fois, c'est pas une explication, c'est presque normal que ça arrive entre guillemets par rapport à ce qui se passe politiquement en
c'est
Europe.
C'est presque prévisible. C'est ce que tu veux dire exactement.
Le problème, c'est trouver les sanctions et comment. C'est-à-dire dire c'est Francfort, c'est pour moi, c'est pas une solution. Ou demain, on dira c'est Marseille ou c'est Naples ou ça. Mais c'est très complexe. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut durcir les lois? Et il y avait plus de d'hooliganisme en Allemagne. Il n'y avait plus d'hooliganisme à tel point qu'ils ont annulé tous les textes de loi sur la violence ou la violence policière contre. Et ils sont forcés en ce moment, ils sont en train de réfléchir à savoir comment on la remet, parce qu'il y a une nouvelle forme d'hooliganisme qui arrive, qui est beaucoup plus complexe, je pense, que celle qui se passait dans les années 80, mais il y a toujours les mêmes résultats.
Voilà pour cet avant-match. On n'a pas eu le temps de parler du jeu, malheureusement. Ce sera peut-être sans suspense. On verra ça, on va suivre ensemble. Vous imaginez pas une seconde, les gars? Walid, toi, Francfort?
Ouais, j'ai du mal à l'imaginer. Ouais. Encore plus que pour le Real Madrid.
Même, pareil.
Parce
même
que, avis. Parce que, voilà, Lindstrom et Colomboigny ben
voilà,
pour la.
Voilà, ils auraient été au complet.
Pour
avec
la profondeur.
Donc,
et encore, évidemment.
L'ouverture du score de Francfort. Oui, alors maintenant, ils peuvent aussi ouvrir le score sans Colomani, mais enfin, j'y crois pas trop.
Et Napoli est tellement un rouleau compresseur en ce moment. J'ai encore vu le match contre l'Atalanta ce week-end.
C'est exceptionnel. Victor Osimhen, on voulait en parler avec Johan.
C'est très, très fort.
Malheureusement, tu m'en veux pas, Johan. On n'a pas eu le temps. Tu seras là pour le débrief hein, de ce duel entre le Napoli et Francfort tout à l'heure dans l'after avec Gilbert, Daniel et Lionel. Le coup d'envoi dans un instant de ces matchs, mais nous, on va parler de Nice, dernier représentant français sur la scène européenne, qui l'a emporté 1-0 au match aller en Ligue Europa Conférence et qui va revenir demain soir 21h face au Sheriff Tiraspol. Et puis l'équipe de France, Alice Deschamps, la première liste post-Coupe du Monde. Quels sont les nouveaux tauliers des Bleus? Appelez-nous 32-16 pour en parler. On parlera également de la hiérarchie des gardiens en équipe de France. C'est Génération After sur RMC. A tout de suite.
RMC.
Moi, je vais pas inventer quelque chose dont on ne ressent pas. Dans une tête tout de droite, pas clouc. Pour les photos.
Je demande pas la lune.
20h-22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Génération After sur RMC, 21h avec Coach Kobis et Walid Acharchour, avec un gros fil rouge, la fin des huitièmes de finale retour de Ligue des Champions, Real Madrid-Liverpool, Napoli, Eintracht Francfort. Avant d'accueillir Maxime Thiette, notre correspondant à Nice, et avant ce duel entre Nice et le Sheriff Tiraspol demain en Ligue Europa Conférence, le coup d'envoi des matchs, bien sûr, on commence par le stade Santiago Bernabéu avec Jeannot Rességuier. Jeannot, à l'instant, poignée de main, Karim Benzema avec le corps arbitral de la soirée.
Oui, avec donc le protocole Milner d'un côté, Benzema de l'autre et Félix Zweier, arbitre allemand, Real Madrid, avec Courtois, Rudiger, Militao, Nacho et Carvajal sur les côtés de la défense, Camavinga, Kroos, Modric au milieu de terrain, Vinicius et Valverde pour accompagner Benzema en attaque. Pour ce qui est de Liverpool, une équipe offensive avec Alisson dans les buts, Alexander Arnold côté droit, Robertson à gauche, Konaté, l'international français, avec Van Dijk pour la charnière, Fabinho avec Milner pour le milieu récupérateur relayeur, Diogo Jota pour accompagner le trio offensif Salah, Nunez et Gakpo. Voilà, le défi est peut-être impossible, mais en tout cas ils vont tenter le tout pour le tout. Klopp l'a évoqué en conférence de presse. Liverpool battu 5-2 à domicile lors du match aller, et ce sont eux, les Reds de Liverpool, qui vont donner le coup d'envoi. Voilà, c'est parti avec le coup d'envoi donné par Salah directement derrière pour un premier ballon sur Konaté qui va essayer d'alerter à gauche rapidement Nunez. Le ballon ira directement en touche.
Ah, tout à l'heure, Jeannot, c'est parti également entre le Napoli et l'Eintracht Francfort, Rien Tiersin.
Ouais, depuis 30 secondes, 0-0, les Napolitains qui peuvent se qualifier pour la première fois de leur histoire en quart de finale de Ligue des Champions, et ce serait mérité avec cette magnifique équipe, hein. Osimhen, Varane, il y a peut-être la première occasion là pour les Napolitains. Justement, le ballon est repoussé par la défense allemande. Il manque Randal Kolo Muani, expulsé lors du match aller. Pas Jesper Lindstrom non plus du côté de Francfort, qui doit marquer donc au moins deux buts pour. Attention, la première frappe de Zielinski qui est repoussée par Kevin Trapp, la frappe de Kvara Trelia contré par Aurelio Buta, le latéral droit de Francfort. Ce sera un premier corner ici au stade Diego Armando Maradona. Une minute de jeu, les Napolitains qui mettent déjà les Allemands en difficulté, 0-0, donc 2-0 sur l'ensemble des deux matchs. La victoire des Italiens, c'était à la Deutsche Bank Arena en Allemagne.
Le corner qui me conçoit avec toi, mon cher Aurélien,
ouais, de la gauche vers la droite, il y a Victor Osimhen évidemment dans la surface de réparation. On attend le coup de pied soit soit de Zielinski, le Polonais, ou de Mario Rui, le Portugais, ce sera le pied gauche du Portugais, dégagé de la tête par la défense de l'Eintracht. Deuxième chance peut-être avec sur le côté droit Matteo Politano, qui n'était pas là lors du match aller. Le relais avec Franck Anguissa, okay. Le ballon est perdu. Deuxième minute de jouer, donc 0-0, mais énorme avantage pour les Napolitains qui l'avaient emporté par 2 buts au match aller.
Demain soir, 21h, l'OGC Nice, dernière chance française en Europe, 8e retour de Ligue Europa Conférence contre le Shérif Tiraspol. Nice l'avait emporté la semaine dernière 1-0 sur la pelouse du Shérif. Le gym a-t-il les moyens de viser très haut cette saison en Ligue Europa Conférence? Vous nous appelez au 32-16, supporters niçois. On va en parler, en débattre avec coach Courbis et également Walid Acharchour. D'abord, j'accueille Maxime Tilliette, notre correspondant sur la Côte d'Azur. Salut Maxime.
Salut Nico, salut à tous.
Salut Maxime. Quelles sont les dernières infos? Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce que le groupe sera quasiment au complet demain?
Alors pas forcément totalement au complet, parce qu'il y a toujours quelques petites absences, notamment celle de Youssef Attal qui a re-shooté au niveau des ischios. En revanche, il y a une bonne nouvelle, c'est le retour de Nicolas Pépé. Il va être précieux dans ce sprint final que les Niçois abordent, avec notamment ce match eh bien demain soir. Nicolas Pépé qui a manqué les 2 derniers mois hein, tout de même de compétition. Il n'a joué qu'un petit match sous les ordres de Didier Digard, qui a pris les commandes de cette équipe. Donc c'est un retour de taille. Sinon, eh bien on aura un effectif quasi au complet pour Didier Digard, mis à part l'absence d'Antoine Mendy, le jeune latéral droit qui est toujours diminué au niveau de la cheville.
Est-ce que c'est une compo probable
aussi, non?
Ouais. Oui, Sofiane Diop, bien sûr, ouais. Évidemment. Qui est
apparemment, c'est un peu plus grave que prévu, en plus.
Bon, alors, ouais, ce n'est pas Didier Digard qui est venu en conférence de presse aujourd'hui, mais son adjoint Julien Sablé, hein, Maxime, hein, parce que le numéro 1 ne pouvait pas.
Oui, c'est ça. C'est en Coupe d'Europe, en fait, l'UEFA a certaines règles. Il faut que un nouvel entraîneur diplômé soit présent 2 mois après le départ de son prédécesseur. Et là, les 2 mois sont passés, ce qui fait que Didier Digard a pu eh bien assumer toutes ses missions habituelles, notamment devant les médias. La semaine passée, il a pu le faire en Moldavie. En revanche, cette semaine, c'est Julien Sablé qui lui a le diplôme, le BEPF, qui a pu donc se présenter face à nous en conférence de presse.
On va l'écouter justement. Julien Sablé, la question lui a été posée: est-ce que d'être le dernier club français encore en lice en Europe ajoute de la pression? Écoutons sa réponse.
Non, ça rajoute pas de pression. On est concentré, encore une fois, la vérité ne ressortira que du terrain, et on est concentré sur nous, et on sait que ça bénéficiera au football français dans un deuxième temps. Mais bon, les paroles, ça s'envole, là, place aux actes, et de sortir une grande performance dans, j'espère, un stade plein pour pousser le gym.
Est-ce que le gym a-t-il les moyens de viser très haut en Ligue Europa Conférence, messieurs, coach et Walid? On en débat ensemble, et vous aussi au 32-16, supporters niçois. Je rappelle quand même les derniers gros, entre guillemets, engagés encore en huitième de finale: Villarreal, sixième de Liga, West Ham, 17e de Première Ligue. Ah, pour moi, un gros, quoi.
Villarreal, sixième de Liga, tu peux pas t'arrêter à ça, Nico.
Pourquoi?
Demi-finaliste de Ligue des Champions l'an dernier.
Oui, ok, tu vas remonter. Ils ont gagné de la fin du moment.
Non, mais ils ont gagné la Ligue Europa l'année d'avant contre Manchester United. On parle quand même d'une équipe qui est en Europe. Et...
Chevronnier expérimenté qui connaissait les hauteurs d'une Coupe européenne. Bon, là-dessus aussi est présente, mais attention, elle a perdu 2-1 contre Alkmaar au match aller. La Fiorentina, 11e de Serie A. Votre avis là-dessus, messieurs, est-ce que Nice a... Parce que je sais qu'à Nice, on a l'ambition, on va parler avec toi, Maxime, dans un instant.
West Ham aussi, qui est encore.
Je l'ai dit, ouais, je l'ai dit. Ouais. Tu regardais pas trop le match et que tu m'écoutais, tu l'aurais su.
D'accord, Nico.
Alors, moi, non, qu'est-ce que Nice doit viser?
Moi, je vais être prudent. Je vais être prudent parce qu'encore une fois, avec les clubs français sur les dernières semaines, il faut l'être, et parce que l'équilibre de Nice est encore fragile. Bien évidemment, qu'ils font du très très bon boulot, qu'ils sont sur une très très bonne dynamique, que Didier Digard a montré que dans le management et puis même dans sa capacité à impulser quelque chose pendant les matchs avec une équipe qui répondait totalement à ce que demandait l'adversaire. On l'a vu contre Monaco, contre Lens, contre Lille, contre l'Olympique de Marseille notamment. Maintenant, on va attendre ce qui va se passer demain soir, et puis après il y a quand même des équipes qui sont pour moi un peu plus outillées en termes d'expérience et même en termes de qualité de joueurs. Tu viens de les citer, même si attention, Nice doit avoir de l'ambition. Ils ont des joueurs très intéressants, de l'expérience mélangée à de la jeunesse. Mais moi, je vais rester quand même prudent. Je peux pas venir sur le plateau aujourd'hui et te dire, Nico, Nice doit prétendre à la gagne, parce que pour moi, ça reste encore fragile. Ça reste une dynamique qui est fragile, et pour moi, Nice doit y aller étape par étape. Après, ça veut pas dire, bien évidemment, qu'elle ne doit pas avoir d'ambition.
J'accueille Patrick au 32-16, ouais. Supporter de GC Nice. Salut Patrick.
Bonsoir l'équipe.
Salut Patrick. Tu as écouté les propos pleins de sagesse de Walid.
Bonsoir. Bah, écoutez, Le match de demain, je vois qu'on va passer quand même tranquillement, parce qu'au vu du match aller sur une pelouse qui était plus un terrain de sable qu'autre chose, sur un coup du sort, on a quand même pu mettre un but, donc demain, ça devrait passer. En revanche, pour les tours suivants, il y a quand même 4-5 gros morceaux. Même si nous, on est quand même, on n'est pas un faire-valoir, on va faire valoir nos droits. Cependant, j'ai une crainte que si on tombe sur des équipes avec un bloc bas, on n'est pas encore en capacité de faire de jeu pour percer, pour aller de l'avant. Par contre, comme on a fait à Lens, comme on a fait à Marseille, comme on a fait à Monaco, si on joue contre, si nous on joue en bloc bas, ça peut être différent.
Oui, après,
c'est pas ce que
après,
vous en pensez.
Après, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas qu'un bloc bas, Nice. C'est un bloc bas, bien évidemment, mais à la sortie, à la ressortie du ballon, c'est quand même très intéressant. Il y a des joueurs au milieu de terrain qui, techniquement, sont capables d'annihiler un pressing. Je pense à Boudaoui qui est en train de prendre une grande dimension. Oui. Je pense à Geoffrey Thuram, notamment.
Oui.
Donc ouais. ce qui est intéressant.
Mais la construction, moi je parle de la construction.
Oui, là, t'as raison d'insister là-dessus, c'est qu'on l'a vu contre Auxerre, on l'a vu contre. Il y a un autre match aussi, contre Ajaccio aussi, où même si ça fait 3-0, je trouve que le score est un peu boursouflé. C'est vrai que ça va être la prochaine étape de Didier Digard, c'est d'essayer de mettre en place quelque chose quand les équipes vont attendre Nice, parce que il y avait cette surprise du Nice d'Odigard, on savait pas très très bien comment les aborder. Là maintenant, je pense que les adversaires auront un peu plus de matière. Maintenant, attention, parce que les grosses équipes dont on cite tout à l'heure, peuvent être piégés par Nice avec un bloc bas. Donc en fait, c'est finalement, on sait pas trop où se situer avec Nice. C'est pour ça que je marche un peu sur des œufs sur la question de Nico, ouais. Moi.
Ça c'est aussi une qualité de notre coach, hein. Il brouille les plans un petit peu à chaque rencontre, hein. Bien que il nous manque quelqu'un au milieu pour diriger le jeu, pour l'orienter. Il nous manque un vieux numéro 10 comme ça se faisait à l'époque, hein. Je pense que ça nous manque.
Coach, comment tu juges cette OGC Nice-là sur la scène européenne? Je sais qu'ils sont très ambitieux à Nice. On a reçu Dante il y a 3 semaines dans Génération After, qui ne s'empêche aucun rêve cette saison.
Je vois pas les choses comme vous. Hein. Ça veut pas dire que c'est moi qui ai raison.
Tant mieux.
Je vous donne quand même mon avis. Ce qui se passe à Nice avec Digard, c'est tout simplement extraordinaire. Je suis le premier à le saluer. N'en demandons pas trop ni à Nice ni à Digard. Si maintenant Nice pense continuer sa remontée au championnat en jouant le jeudi, en voyageant pour aller en Moldavie, et qu'à la fin de la saison il manque un point ou deux pour pas être européen, ben ça sera vraiment dommage. Enfin pour moi. Mais maintenant, oui. En ce qui concerne cette coupe, qu'elle soit considérée comme une Coupe d'Europe, oui, allez, si vous voulez.
C'est oui, c'est vrai que t'as du mal avec la Coupe.
C'est la Coupe des villes de foire de l'ancien temps.
Voilà, donc c'est...
Mais de respect quand même, les gars.
Non, mais ça s'appelait comme ça, hein, ville de foire.
Oui, je sais bien, mais bon...
Pour un club comme Nice, c'est quand même important.
Coach, rappelle-toi Mourinho, quand il gagne la Ligue Europa Conférence, c'est la fête à Rome, c'est la folie. Mais à Nice,
c'est comme ça que tu te crées une histoire européenne.
C'est certainement vous qui avez raison.
Surtout pour Nice, Roland.
Tu la prendrais pas, toi. Tu serais coach d'une équipe de Ligue 1 aujourd'hui. Tu la disputes, tu la mettrais de côté, quoi.
Mais non, je la mettrais pas de côté. Non. Mais quand par exemple j'aurai le choix entre ma meilleure équipe le jeudi ou le dimanche avec le match de championnat, et que je regarde par exemple que tel ou tel club comme Rennes et tout, ils sont pas si loin que ça, et que là je viens de me faire accrocher deux fois, oui, je reste invaincu avec deux matchs nuls, je viens de prendre simplement deux points sur six, et ben peut-être que c'est ce calendrier qui m'a fait perdre deux points. Alors je dis bien peut-être. En ce qui concerne après les risques de blessure, je te dis pas avec la fatigue, si Nice arrive à aller au bout dans cette coupe conférence et être dans les 5 premiers comme je pense que c'est possible, oui. Eh ben je serai le premier à applaudir. Mais si des fois il manque 2-3 points, eh ben on ira les chercher peut-être au match du jeudi. Si par contre tu vas jusqu'au bout et que tu la gagnes, puisque tu me fais la comparaison avec ceux qui l'ont gagné, eh ben à ce moment-là, c'est moi qui aurais été trop prudent. Eh ben désolé d'être trop prudent.
Moi je trouve Roland Courbis très prudent, hein, Nico. Trop prudent. Parce que non, en fait, l'histoire que nous raconte l'OGC Nice cette saison, c'est que ils ont été très très vite décrochés pour l'Europe. notamment avec ce début de saison sous Favre.
Et moi, les 10 premiers matchs, ça a été catastrophique.
Hein. Notamment, donc aujourd'hui, il y a quand même des équipes, notamment Rennes et Lille, hein, même si même Reims, qui sont en capacité d'aller jouer cette cinquième place. Donc moi, pour moi, si j'étais à la place de Nice, surtout Nice, parce que Nice, alors moi j'ai 29 ans, donc je parle sous le contrôle de toi, Nico et Roland, et même de notre auditeur, c'est que Nice a très très peu d'histoire européenne.
Bien sûr.
Moi j'ai oui. Voilà, je
si. Donc moi j'ai vu un magnifique Nice Kilmarnock, je passe en dessous, Patrick.
97 oui, 98.
J'étais 77, au stade.
Oui. Non mais moi 97,
ouais, moi, me dis pas hein, pas 77.
Moi j'ai très peu de d'épopées niçoises qui me reviennent, donc sûrement ça n'a pas existé. Donc cette équipe là et ce club là
bien sûr
a une opportunité, ils sont donc ils peuvent être en quart de finale de Conference League. Quart de finale.
Youpi.
Ça ils vont y aller.
Je crois que tu mesures pas quart, les supporters niçois
que
ça peut représenter.
Roland.
Mais oui, alors
Roland,
que c'est,
s'il te plaît,
peut-être que c'est fabriqué artificiellement, certes, oui, mais en tout cas l'émotion elle est là aujourd'hui. Et je pense que Patrick à Nice, quand on parle avec tes potes, vous imaginez un parcours peut-être. Toi t'es pas hyper confiant pour aller jusqu'au bout, mon cher Patrick.
Non.
Mais t'es en quart de finale.
Comment tu vivrais ça si Nice jouait une finale de Ligue Europa Conférence?
Tu te rends compte, Wally, à la fin de la saison, quand tu feras le bilan avec tes potes au bar en train de boire la pluie. On a été en quart de finale.
Non, on parle de victoire finale.
On dit qu'en quart de finale, tu dois pas être prudent et tu dois y aller jusqu'au bout. Entre un quart de finale de Conference League et tes sixième, septième, parce que ton raisonnement, ton fameux raisonnement, Roland, que je respecte totalement, mais tu peux pas jouer toute la fin de saison à 15, 16 joueurs en essayant de faire une équipe de 8 joueurs à chaque fois et de changer un joueur ou deux par ligne pour essayer d'avoir tout le temps une équipe compétitive. C'est pas possible pour Nice.
Mais ils n'ont pas les joueurs. Mais c'est possible. C'est d'ailleurs pour ça que mes mains, ils sont prêtes pour applaudir. Il n'y a plus qu'à s'en servir.
Pourquoi on part tout de suite sur une histoire de défaitisme un petit peu, du truc un peu.
Non, il faut y aller là.
On va perdre 2 ou 3 points. Et si Nice, il termine 6e ou 7e cette saison en ayant fait une demi-finale de Conference League, on n'en voudra pas à Digard parce que malheureusement, Lucien Favre et Nice ont fait un début de saison catastrophique et on les imaginait même pas il y a encore 3 semaines.
Je posais la question à Patrick et à Maxime aussi dans un instant.
Arrête, Roland.
Finir 10e et gagner la Ligue Europa Conférence ou finir 5e et échouer en quart de finale à Ligue Europa Conférence, tu fais quoi toi?
Moi?
Ouais.
5e.
D'accord. Et quart de finale Ligue Europa Conférence.
On va jouer un beau quart. On va faire un beau match.
J'ai mal à mon romantisme.
Et puis on va finir 5e.
C'est quoi ton dilemme là?
Entre terminer 10e de Ligue 1 et gagner la Ligue Europa Conférence ou terminer 5e de Ligue 1 et jouer en quart de finale en Ligue Europa Conférence.
Mais comment on peut choisir la 5e place?
Remporter la coupe.
Remporter la coupe d'Europe, pour Jean-Patrick. Tu joues une coupe d'Europe l'année prochaine.
Mais la même chose.
Mais là, ils auront gagné, tu vas la jouer, alors on ira gagner Ligue Europa Conférence.
Mais si tu gagnes la Conférence League, t'étais qualifié aussi.
Patrick, t'étais pas armé pour ce débat, j'ai l'impression.
Mais tu penses que la Roma, ils ont pas joué l'Europa League cette année, la Roma? Ils sont pas en Europa League, ils ont gagné la Conference League l'année dernière. T'as coup double, t'as le premier titre européen de ton histoire. Mais la 10e place en Ligue 1.
La 3e Coupe d'Europe française de l'histoire.
Mais je sais, mais en fait. Mais là,
même
mais,
si coach, je pense que c'est pas une Coupe d'Europe. Mais bon, voilà.
Coach, t'es d'accord avec ça, coach?
On est en train de convaincre. T'as vu? T'es en train de bouger un peu. Maxime, comment on vit ça à Nice, toi, cette aventure européenne?
On a conscience que la Nice peut quand même atteindre pour la 3e fois de son histoire seulement un quart de finale de Coupe d'Europe. Et les dernières, c'était en 57 et en 60 face au Real Madrid. Donc c'était une autre époque. On est conscient qu'il y a la possibilité d'écrire l'histoire. Alors ce n'est certes entre guillemets que la Conference League, mais Nice va pas cracher dessus, loin de là. Faut être honnête. Après, je me souviens d'une déclaration de Didier Digard avant le match de Nantes ce week-end. Ils ont rentré à peine de Moldavie et il disait que pour Nice, malgré tout, le chemin le plus court vers l'Europe, ça restait le championnat. Parce que les équipes devant n'étaient vraiment pas loin et il y avait la possibilité d'aller les chercher. Après, Didier Digard, honnêtement, il dit ça, mais il a très envie de vivre une belle aventure européenne parce que c'est aussi en vivant ce genre d'émotion, ce genre d'épopée qu'on peut aussi ramener du monde à l'Alliance. On sait que c'est un défi qui n'a pas toujours été évident de créer une dynamique autour de l'OGC Nice. Et c'est vrai qu'une Coupe d'Europe, on l'a vu à Marseille la saison passée. Alors c'est Marseille certes, mais il y avait un réel engouement autour des rencontres de Conference League. Et à Nice, on peut imaginer que si ça passe ce tour-là, derrière il y aura encore de belles affiches et ça peut créer vraiment quelque chose.
Mais je pose la question, si sincèrement Nice n'est pas européen à la fin de saison, il y a quelqu'un qui va dire quelque chose après l'histoire qu'on nous a racontée sur les 6 premiers mois?
Ah non, pas du tout. Mais s'ils ne sont pas européens, qu'il leur manque 2 points, je t'expliquerai moi où c'est qu'ils sont, ouais. qu'ils ont été perdus ces deux points.
Oui, mais moi je préfère que les deux points,
ils ont été perdus ici à la maison contre Auxerre, première journée,
exactement.
Et, ouais. et à la dernière minute contre à Nantes. Hein.
Et puis surtout,
il y a quatre points qui nous filent sous le nez.
Et surtout, okay. je préfère un club Allez. Français, cette mentalité du club français qui va jusqu'au bout dans ses épopées européennes, que de jouer à l'épicier, comme ce que dit Roland là depuis tout à l'heure.
Appelle-toi Marseille en Ligue Europa.
L'épicier, il te signale qu'il a eu le plaisir d'être sur un banc et de pas être champion parce que il m'a manqué un point et ce point-là, il m'a manqué parce qu'on a joué les matchs tous les jeudis pendant que Bordeaux, ils nous regardaient jouer à la télé.
Tu vois, l'épicier, c'est ce qu'il a dans la réserve. Toi, tu sais pas ce qu'il y a dans la réserve. Ouais, c'est le raisonnement pragmatique de coach. Merci Patrice, on fait le 32-16.
Merci à vous l'équipe. Bonne
tu peux
soirée.
Nous rappeler demain hein, pour le débrief okay, de ce match, Nice, Chéri Tiraspol. Merci également à toi, Maxime. Bon match.
Il faut battre ce shérif. Là, que,
ça
nous fera des souvenirs. On était au Far West, il y avait même un shérif. Et ben on l'a battu. Hein. Et puis les Indiens, ils peuvent arriver. Hein.
Il est bon ce coach. Maxime, merci. Donc tu rencontreras le shérif demain. Écoute,
exactement. Hein. À demain.
Bon bonne commentaire soirée, à toi et bonne soirée d'abord.
Qui te rencontre le shérif
Roland, tu peux mettre un euro de bonbon, s'il te plaît, Roland.
Oh là là là.
Allez, les matchs en direct Ligue des Champions, les huitièmes de finale retour. Le Stade Santiago Bernabéu, Real Madrid, Liverpool. Jeannot Rességuier.
17 minutes de jeu, 0-0, 5-2 pour le Real, toujours sur l'ensemble des deux matchs. Deux pertes de balles en début de match. 6e minute pour le Real. Benzema, Rudiger qui n'est pas bien positionné. Et ça a failli profiter à ça l'appuie pour Núñez et l'arrêt de Courtois du bout des crampons. Deux minutes plus tard, même système, perte de balle de la part de Liverpool, alors que là il y a un ballon dans la surface de réparation qui vient de la droite avec Salah et imprécision derrière de la part de Diogo Jota. À la 8e minute, perte de balle de Liverpool. Benzema, Vinicius, décalage avec Kroos et la passe en retrait n'est pas bonne. Milner peut sauver la baraque et la grosse occasion, elle est pour le Real Madrid à la 14e minute. Rudiger sur un ballon venu de la droite qui remise de la tête au deuxième poteau. Vinicius est à deux doigts d'ouvrir le score alors que Alisson Becker se demande encore comment il a pu détourner cette balle sur son propre poteau.
L'autre match également entre le Napoli et Francfort, Aurélien Tiersin.
0-0 après 18 minutes de jouer et c'est Kvaratskhelia qui a la clé. Clairement, on l'attendait évidemment, le Géorgien, dès qu'il accélère, il fait très très mal à cette équipe de Francfort. Pied droit, le corner quand même avec le point de Kevin Trapp, c'est repoussé à l'entrée de la surface. La reprise de Mario Rui, elle est un peu écrasée, c'est dégagé par la défense de Francfort qui a quand même eu 10 bonnes premières minutes avec notamment à la 6e Mario Götze qui rate une reprise qui paraissait facile à 2-3 mètres des cages d'Alex Meret sur un beau service de Raphaël Boré. Mais là, dès que Gvisha Kvaratskhelia accélère, il fait des 1-2, des doubles 1-2, des triples 1-2. Alors évidemment, il a des coéquipiers autour de lui, Victor Osimhen qui est très solide, Mario Rui qui fait un bon match aussi dans le couloir gauche. Mais Kvaratskhelia, il a déjà frappé deux fois au but et on sent qu'il a toute la latitude pour faire très mal à cette équipe de Francfort qui a toujours deux buts de retard donc dans cette partie. 20e minute, 0-0 au stade Diego Armando Maradona.
Dans un instant, l'équipe de France, la première liste post-Coupe du Monde de Deschamps, elle a attendu. Il y aura peut-être des surprises, on en parle avec coach Courbis, Wade Cherchot, et on profitera bien sûr de la présence de Jeannot Rességuier, notre homme qui suit l'équipe de France depuis maintenant. Je ne sais même pas le dire. Restez avec nous. À l'instant, Jeannot, une grosse phrase de Kamavinga d'ailleurs.
Oui, à l'entrée de la surface de réparation, Kamavinga qui sera certainement sur la liste de Didier Deschamps qui tente sa chance. La balle est un peu flottante et elle finit sur la transversale du but d'Alisson Becker. Ça va être compliqué pour Liverpool s'ils ne mettent pas au moins un but sur la première période parce que là, pour l'instant, ils ne se montrent pas très très dangereux. Au contraire, à l'inverse, c'est le Real qui a les plus grosses situations.
Ah, tout à l'heure, Jeannot, on parle des Bleus dans un instant, la liste de Deschamps qui va tomber demain à la mi-journée. Reste avec nous, c'est Génération After sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jeannot.
Avec coach Courbis, Walid Acherchon, c'est Génération After sur RMC. Il est 21h22. Les matchs, les 8e de finale, retour de Ligue des Champions. Real Liverpool, Jeannot Rességuier.
Toujours 0-0, toujours 3 buts de retard pour Liverpool. Corner à suivre pour le Real avec Kroos pour le frapper de la droite vers la gauche et ballon dégagé de la tête par Konaté. Ça rebondit encore dans la surface de réparation avec Fabinho qui devance Militao et toujours cette équipe du Real qui se porte à l'assaut du but d'Alisson Becker. Ça revient dans les pieds de Modric. Oh, elle part bien cette balle, elle flirte avec la transversale, elle n'est pas cadrée mais à quelque chose de près. C'était pas très loin de la lucarne. 22 minutes de jeu.
Une grosse ascendance dans le jeu, le Real.
Pardon ?
ils sont en train de prendre une grosse ascendance dans le jeu.
Après, c'est un peu normal. Il y a le 5-2 du match aller, puis ensuite, tu sors à la maison. Ouais. Donc là, je m'attendais à un autre début de match de Liverpool, parce que on se rappelle du 1-0, puis 2-0, après 4 et 14 minutes de jeu pour les Reds au match aller, avant de sombrer derrière. Là, pour l'instant, très honnêtement, je veux bien que Jürgen Klopp soit tranquille dans sa tête et dans son plan de jeu, mais il va falloir être un petit peu plus dangereux.
L'autre match, l'autre huitième retour entre le Napoli et l'Eintracht Francfort, Aurélien Tirsin.
0-0, 22 minutes et 40 secondes de jouer. Un bon coup franc pour les Napolitains qui ont toujours deux buts d'avance sur l'ensemble des deux matchs. Coup franc sur le côté droit du terrain, une bonne quarantaine de mètres des cages de Kevin Trapp. Il y a le pied gauche de Matteo Politano, le pied droit du Polonais Piotr Zieliński. Ça sera pour le Polonais pour la mettre dans la boîte, évidemment, la grande taille de Victor Osimhen ou celle d'Anguissa au deuxième poteau. La tête qui va passer devant la cage de Kevin Trapp et dégagée par Daichi Kamada. Ça va être compliqué quand même, on le sent, pour cette équipe de Francfort. On le savait, il n'y a pas Kolo Muani, il n'y a pas Lindstrom. C'est la plus mauvaise attaque de Ligue des Champions parmi les équipes encore qualifiées. Mission presque impossible pour les Allemands. 0-0 après 24 minutes.
Demain, donc, la liste de Didier Deschamps pour les éliminatoires de l'Euro 2024. Deux matchs, les Pays-Bas le 24 mars, l'Irlande le 27. Une majorité de joueurs finalistes au Qatar devraient en être. Ils étaient 24 au départ pour le Mondial 2022. Ils devraient être 23 pour lancer la campagne. Quels doivent être les nouveaux tauliers de l'équipe de France? Vous nous appelez au 32-16 pour en parler, en débattre avec Coach Courbis et Walid Acharchour. Et on profite bien sûr de la présence de monsieur équipe de France, Jeannot Rességuier, qui commente en même temps Real Madrid Liverpool. Jeannot, tu me confirmes, peu de surprises attendues demain?
Oui, alors déjà, il y aura peut-être une surprise au niveau du gardien de but, puisque les deux retraités, Lloris et Mandanda, il faut les compenser. Maignan, qui est revenu en forme et qui joue surtout avec l'AC Milan, sera donc numéro 1, c'est ce qui lui avait été en tout cas promis. Ensuite, Areola, avec le fait qu'il soit champion du monde, eh bien, donne un avantage dans l'esprit de Didier Deschamps. Je sais que ça ne plaît pas trop à coach Courbis, mais après, il y a une vraie interrogation autour de Lafond et de Samba. Les deux ont été vus par Franck Raviot. Franck Raviot apprécie Samba. Après, reste à savoir, et c'est la question que se pose le staff, il y a vraiment une réflexion là-dessus, reste à savoir si Samba acceptera de se retrouver en numéro 2 ou voire même en numéro 3 si Areola a été confirmé juste derrière Mike Maignan.
Pourquoi il n'accepterait pas?
Pour ce qui est d'Areola,
les échos qu'on a sur le fait qu'il est très ambitieux et par rapport à Didier Deschamps, la hiérarchie doit être claire, nette et précise.
En ce qui concerne Areola, moi je pense que Brice Samba il est meilleur, mais j'ai rien contre Areola.
Ah mais ça c'est ton avis, il n'y a pas de souci. Voilà. Je pense beaucoup ont cet avis là, mais sauf qu'après il faut être dans la logique de Didier Deschamps. Après derrière il y a un nom qui revient beaucoup, c'est celui de Wesley Fofana, avant qu'il se blesse avant la Coupe du Monde. Il était question qu'il intègre l'équipe de France, donc ça c'est un nom qui pourrait servir de surprise. Et ensuite au milieu de terrain, pour l'instant, il y a deux noms de jeunes qui reviennent assez souvent. C'est Manu Koné de Mönchengladbach, l'ancien Toulousain, et Kefren Thuram. Sauf que voilà, il y a le championnat d'Europe des espoirs. Il y a eu discussion entre Ripoll et Didier Deschamps, et que ce serait assez surprenant, eh bien, que des joueurs clés des espoirs se retrouvent avec les A sur la liste des A demain. Mais bon, sait-on jamais à ce niveau-là. Et puis pour finir, un retour normalement, en tout cas qui est possible, celui de Moussa Diaby avec Leverkusen en l'absence de Dembélé, et le non-retour de Nkunku, puisque vous le savez, il était revenu de blessure et oui, il a rechuté entre guillemets, ou plutôt blessure de compensation.
Coach, quelle surprise tu aimerais voir demain dans la liste?
Ben, j'aimerais voir
quel rêve tu aurais même.
Un tireur de coup franc. J'aimerais voir milieu capable de faire des ouvertures sur les appels d'Mbappé. Et malheureusement, dans cette génération, j'en vois un qui est pas tout jeune, qui a une trentaine d'années, mais bon, le présent. Ben oui, ça va nier. Si par exemple là aussi on me dit que je suis fou de penser à Savanier, ben pourquoi pas. Le football, il y a un petit peu de folie aussi, mais qu'on me dise aussi en même temps que je suis fou, qui c'est qu'il y a de mieux pour faire les passes à Mbappé? Oui, Griezmann, Nkunku, il est pas là. Eh ben je cherche dans les Français possibles. Et ce Savanier, tireur de coup franc, on va passer combien d'années sans plus marquer un coup franc dans notre équipe de France? Un jour ça va bien s'arrêter. Ben lui, il en est capable. J'ai encore vu dernièrement son corner frappé.
Coup franc direct en match officiel, tu veux dire, hein, bien sûr. Jérôme Rotten 2008 contre les Îles Féroé. Mais entre-temps, on en a quand même marqué quelques-uns avec Griezmann, avec Pogba. Il y en a eu. C'était des matchs amicaux.
Oui, non, mais je parle pas d'un coup franc qu'on met sur la tête d'un partenaire. Hein.
Coup franc direct.
Je parle de coup franc direct.
Bon, le problème, quand je connais l'histoire, c'est que Savanier, bon, il a 31 ans, il va avoir 32 ans cette année, que Deschamps, il veut construire encore pour l'Euro et la Coupe du Monde 2026.
Oui, mais attends.
Moi, j'aime bien ton idée, hein, évidemment. On a souvent parlé d'ailleurs.
Ça, ok. Mais en ce qui concerne Savanier, c'est pas non plus interdit d'être sélectionné à 31 ans pour avoir comme objectif l'Euro. Après, pour la Coupe du Monde d'après, si d'ici là, il y a un jeune qui arrive, on verra. Mais bon, moi, c'est mon avis. Après, ça reste le mien, c'est tout.
Walid, un avis là-dessus ?
Non, moi j'aimerais bien déjà voir Brissamba sélectionné, on en parlera après, mais sinon, dans cette liste-là, peut-être voir un Jean-Claire Todibo ou un Wesley Fofana en défense centrale. J'aimerais bien voir.
Après, on parle de doublure, hein, Walid. Hein.
Oui.
La charnière, ça sera Konaté.
Non, bien évidemment.
Avec Upamecano, c'est certainement Nico, en tout cas, celle que Deschamps veut installer.
Oui, bien sûr. Ça, il y aura pas de souci sur Upamecano. Konaté, surtout en plus avec le Upamecano qu'on a vu contre le Paris Saint-Germain.
C'est clair.
C'est le leader aujourd'hui post Varane. Il y a aucun problème là-dessus. Maintenant, c'est plus dans la liste. Hein. C'était la question de Nico. Essayer de voir un peu des têtes un peu fraîches. Et moi, je trouve que avoir récompensé un Todibo, récompenser un mec au milieu de terrain comme Manu Koné ou comme Khéphren Thuram, qui sont des milieux de terrain qui sont créatifs, qui ont une palette je trouve assez moderne et en phase avec ce que le foot aujourd'hui peut proposer.
Thuram, moi, ça me plaît bien.
Oui, Khéphren Thuram avec Nice, c'est pas forcément des joueurs qui jouent dans des très très gros clubs, mais je pense que dans l'émergence, surtout dans un secteur où on a perdu Kanté, on a perdu Pogba, on a souvent dit notamment avant la Coupe du Monde que c'était assez léger. Je pense que dans ce secteur-là, on peut apporter des styles différents et c'est deux joueurs qui pour moi peuvent ramener une petite plus-value dans ce secteur-là. En tout cas, les essayer, j'aimerais bien.
J'accueille Thomas au 32-16 supporter de l'AS Saint-Etienne. C'est important de le préciser avant de l'accueillir, Thomas. Salut.
Salut les gars.
Salut Thomas, bienvenue dans Génération After sur RMC, Thomas. Alors,
salut Thomas.
Quels seraient tes souhaits pour la liste demain, toi ?
Moi, je vais faire un petit peu de nostalgie et faire un peu rêver tous les supporters des Verts. Moi, ça serait, sur le long terme, installer une charnière Saliba ou Wesley Fofana.
Ah,
ouais. Je pense que...
Une saison où...
Par un peu de loin, là, quand même.
Une saison 2019-2020, on finit quatrième meilleure défense avec 41 buts pris devant à Paris, Lille et Nice. On va en coupe finale de Coupe de France avec eux. On espère le retour de Saliba pour jouer contre le PSG, ce qui vient pas, et du coup, c'est la fameuse action avec Perrin qui va découper Mbappé. Peut-être qu'avec les deux, ça aurait peut-être été un peu différent, quoique. Mais surtout, c'est des gars qui se connaissent depuis, le centre de formation, et, pour moi, l'importance des automatismes et de bien se connaître dans une charnière centrale, si tu joues à quatre derrière, donc avec deux gros centraux, c'est primordial et, franchement, quand tu les as vus éclore avec tes supporters stéphanois, les gamins, quand ils sont arrivés, ils avaient 18-19 ans. C'était assez impressionnant, quoi.
Attendons que Fofana soit dans la liste, déjà. Allons-y étape par étape, quand même, sur le rêve. Fofana, c'est intéressant d'insister là-dessus, parce que Fofana, moi, c'est un défenseur que j'aime beaucoup. Hein. Après Saint-Etienne, il avait fait une saison incroyable à Leicester avant de se faire une grave blessure, notamment contre Villarreal en prépa. Mais il a du mal un petit peu à s'imposer, à enchaîner avec Chelsea. Donc, ce serait quand même une mini surprise. Je sais pas ce que t'en penses, Jeannot, de le voir s'il est appelé par Deschamps.
De toute façon, il y a match avec Disasi, Todibo et Fofana.
Mais voilà. sur la récurrence et la régularité en termes de match, c'est pas
après,
Fofana.
Moi, j'ai pris l'habitude, Walid, d'être dans le suivi des intentions de Deschamps. Et quand il a, à un moment donné, pensé à un joueur, il y revient. Donc, il ne l'a pas fait. Et pour cause, puisqu'il y a eu blessure. Et il est possible que ce soit cette fois-ci la bonne pour lui. Quoi. Voilà.
Et Jeannot, en ce qui concerne le cas Pavard, qui est quand même... un cas avec un grand point d'interrogation, on va vers
mis au banc à la Coupe du Monde après le match contre l'Australie, banc des remplaçants bien évidemment. Écoute, de ce qu'on a comme retour avec Fabrice Hawkins, c'est qu'il devrait être présent avec Koundé. On n'a pas de véritable latéral droit qui émerge. Il y avait Mukiele qui avait gros à jouer ces derniers temps, mais qui s'est reblessé avec le Paris Saint-Germain. Kalulu et Simakan pour penser aux espoirs, parce qu'il y a beaucoup de liens entre Ripoll et Deschamps. Il y a le championnat d'Europe du mois de juin prochain et il y a surtout deux joueurs, un qui ne joue plus titulaire, Simakan, et un autre qui est repassé dans l'axe, Kalulu.
Donc il a joué hier, Simakan, non?
il est rentré.
Il est rentré en jeu.
Il n'est plus vraiment titulaire. En revanche, Kaloulou, lui, est toujours titulaire, mais a glissé en tant que défenseur central.
Et Klos, c'est fini, Klos ?
Klos, dans une défense à 4, ça me paraît un peu compliqué.
Ça veut dire qu'on repart sur une défense à 4, moi, Charles.
Bah, c'est ce qu'il a expliqué clairement au moment de la Coupe du Monde et post-Coupe du Monde dans son bilan. Quoi.
Bon, okay. Bon, très bien. Thomas, tu vas ajouter quelque chose
que nous, vas-y, coach. Notre idée, c'est...
Attends, Thomas, vas-y, coach.
Notre idée, c'est ou à 4 ou à 3, mais... envisager les deux, y compris dans le même match.
Si, les envisage, mais il les envisage, mais ça ne sera pas sa priorité, comme ce fut à un moment donné sa priorité de faire une défense à 3.
Thomas,
ouais.
Qu'est-ce que tu voulais rajouter?
Bah après, moi, sur la complémentarité, comme moi, j'aime bien avoir deux styles de défenseurs derrière. Je te dirais que Saliba, je pense qu'il a pris plus en confiance et il est plus à l'aise aussi techniquement, notamment avec ses coéquipiers. Je pense qu'Arsenal sont clairement qu'il rassure plus qu'à Saint-Etienne, ça c'est sûr. Mais je vois bien Fofana avec un style un peu plus stopper, quelqu'un qui est un peu plus physique et qui voilà va être présent au duel, au corner et qui va d'ailleurs récemment, je crois, il a mis deux buts sur coup de pied arrêté ces dernières semaines. Et un Saliba, tu vois, qui va peut-être plus oser les monter en avant avec une technique comme il fait faire avec Arsenal, là où il fait des super passes à ses coéquipiers. Et ça, moi, je trouve que c'est assez complémentaire. Après, j'oublie pas que j'ai vu la prestation d'Upamecano au PSG. En défense centrale, pour moi, c'est plus que logique.
Ça compte énormément dans l'esprit de Deschamps, évidemment. Il a des grosses garanties avec Dayo Upamecano. Merci Thomas d'Arfel 32-16.
Merci à vous, les gars.
Salut, tu reviens quand tu veux dans Génération After sur RMC. La Ligue des Champions, les gars. Tiens, commençons par Naples-Francfort. Rien tire ça.
34e minute de jeu, 0-0. Donc, pour l'instant, Naples virtuellement qualifié pour les quarts de finale. Et tranquille, les Napolitains, ils maîtrisent la partie. Il n'y a pas d'énorme occasion. Il y a Gvishak Varatsrelia, le géorgien magique du Napoli, qui a buté sur Kevin Trapp avec son pied droit. À part ça, c'est compliqué pour les Allemands d'aller se procurer des occasions. Il y a eu quand même une passe en profondeur vers Mario Götze, qui aurait pu se présenter tout seul face à Alex Meret, mais j'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Il a dû avoir peur de son coéquipier Raphaël Boré. Les deux joueurs allemands ont ralenti, on n'était pas encore sûr qu'il y a hors jeu, et puis bah le gardien italien a tranquillement pris le ballon dans les gants et puis ça s'est arrêté là. Donc 0-0 après 35 minutes de jouer.
Tout à l'heure, Aurélien, Jeannot, Real, Liverpool.
Ouais, 34 minutes de jeu, 0-0, 5-2 sur l'ensemble des deux matchs. C'est le résultat du match aller pour le Real Madrid. J'ai revu l'action et c'était pas vraiment le poteau, c'était un arrêt de handballeur de la part d'Alisson sur la frappe de Vinicius. Et à l'instant, c'est la grosse occasion, à la 14e minute, l'arrêt d'Alisson. Et à l'instant, la belle frappe de Nunez détournée par Courtois qui fait des merveilles. Vinicius dans la surface de réparation, la frappe enchaînée et l'arrêt impeccable d'Alisson, alors qu'il y a eu un bel appel au deuxième poteau de la part de Karim Benzema. On est à moins de 10 minutes de la fin de la première période et Liverpool n'a pas encore déclenché le moindre but.
Et on parle dans un instant de l'équipe de France, encore la suite de la liste de Deschamps. On va parler des gardiens notamment. Willy, tu veux développer un avis sur un homme que tu apprécies particulièrement, un gardien que tu apprécies particulièrement, c'est Brice Samba. Il n'y aura pas de débat parce que je sais que coach adore Brice Samba également. On va en parler. Quelle hiérarchie pour les gardiens en équipe de France? On peut nous appeler au 32-16 également. C'est Génération After sur RMC. 21h35. À tout de suite.
RMC. 20h-22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Coach Courbis et Walid Acharchour. Hein, soirée spéciale Génération After et Ligue des Champions, bien sûr. Les huitièmes de finale retour. On s'approche de la fin des premières périodes. Real Madrid-Liverpool, Jeannot Rességuier.
38 minutes de jeu. Le match est arrêté. Un tacle un petit peu vilain de la part de Salah sur Nacho. Ça se rapproche pour Liverpool. 32e, Nunez, la frappe est de Courtois qui détourne en corner. 35e, Gakpo, le néerlandais arrivé cet hiver du PSV Eindhoven, futur adversaire de l'équipe de France. Gakpo, eh bien, a failli tromper Courtois qui a encore réalisé l'arrêt qu'il fallait sur le corner qui a suivi. Salah très vicieux au premier poteau, a vu Benzema mettre le ballon en corner. Donc ça se rapproche un petit peu, en tout cas les intentions et les actes maintenant, ou tout du moins les intentions sont suivies d'actes pour les joueurs de Liverpool.
Naples-Francfort, Aurélien Tiersin.
0-0, avantage toujours au Napoli qui ne se fait pas bouger par Francfort. C'est pas un match qui part dans tous les sens. Un Napoli très solide, et puis pour mettre un petit peu plus la tête dans le guidon, dans l'eau en tout cas des Allemands, il y a des stats qui font très mal, hein. Naples n'a plus perdu en Ligue des Champions à domicile depuis 2017 et les Allemands n'ont plus gagné à l'extérieur depuis le mois de novembre. Donc ça sera vraiment un exploit énormissime qu'on voit les Napolitains se faire sortir par Francfort. 0-0, 40e minute.
Ce serait une première, hein, pour l'histoire de Napoli, goûter un quart de finale de Ligue des Champions. Je ne le savais pas, je l'ai appris il y a un mois. Ouais. J'ignorais. Ouais. Dans la grande histoire du Napoli, aucun quart de finale.
Deux huitièmes de finale.
C'est dingue.
Contre Chelsea avec la fameuse remontada et contre le Real Madrid. En 2017, celui de Zidane.
L'encyclopédie contemporaine du football mondial. Walid Acharchour, coach, t'es pas surpris quand je dis ça, que le Napoli n'a jamais joué un quart de finale de Ligue des Champions?
C'est étonnant. Alors là, sincèrement, tu m'aurais posé la question, j'aurais perdu.
La vraie révolution demain dans la liste de l'équipe de France, c'est bien sûr le poste de gardien. Lloris, Malanda, c'est fini. Maignan sera le numéro 1, il n'y a pas de doute. Areola en sera aussi, parce qu'il rejoue West Ham. Il profite de la blessure du numéro 1 et qu'il est apprécié du groupe. Mais quel sera le numéro 3? Pas forcément dans l'ordre de la hiérarchie d'ailleurs. Ça semble se jouer entre Alban Lafont et Brice Samba. Walid, toi, tu veux voir Brice Samba dans la liste de Deschamps demain? Avis Walid Acharchour.
C'est pas reproduisable parce que tu as l'arme Kylian Mbappé dans ton équipe.
Walid, pourquoi tu veux voir absolument le gardien du Racing Club de Lens demain dans la liste de Deschamps?
Parce que pour moi, il mérite totalement, il a totalement les qualités pour remplir ce rôle. Je pense que c'est le bon moment pour envoyer un coup de fraîcheur avec les retraites de Mandanda et de Lloris. Mais aujourd'hui, Brice Samba, on parle d'un gardien qui a 28 ans, c'est-à-dire que c'est pas un jeuneau, c'est un joueur qui a roulé sa bosse à Nottingham, à Nancy, à Caen, avec des échecs, des réussites comme l'année dernière avec la montée à Nottingham et cette saison à Lens où aujourd'hui Brice Samba est pour moi le ou l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1 cette saison. C'est la meilleure défense de Ligue 1. Il a un charisme, il a une personnalité et je pense que Brice Samba doit être appelé. Quand on en parlait un peu en amont, Nico, et vu certaines tendances dans certains médias, je pensais moi que Brice Samba allait être dans les trois. Jeannot nous a un petit peu refroidi tout à l'heure, donc on va attendre, on va voir, mais je trouverais ça quand même surprenant que Brice Samba, par rapport à tout ce que je viens de dire et par rapport à tout ce qu'il réalise depuis le début de saison, surtout que je pense que Brice Samba ne s'attendait pas sur les dernières années à être en équipe de France, donc je suis pas sûr. Alors je connais pas le dossier parfaitement.
Tu comptais jouer en championship avec Nottingham Forest.
Exactement, ouais. Je suis pas le dossier parfaitement, hein, mais j'imagine que quand tu passes de Nancy, Caen, Nottingham Forest et que tu arrives aujourd'hui à Lens et que tu es aux portes de la Ligue des Champions et aux portes de l'équipe de France, tu vas pas avoir d'énormes ambitions dans un premier temps. Donc je pense que troisième ou deuxième derrière Mike Maignan, qui lui attend depuis un bon bout de temps
et qui est une grosse garantie.
C'est une grosse garantie avec ce qu'il fait à l'AC Milan et ce qu'il a fait à Lille notamment. Je pense que Brice Samba peut être un très très bon backup et pas le backup qu'on fait plaisir. Exactement, parce que il est sympathique, etc. Non, on a un backup très très solide et très très fiable si Mike Maignan se blesse ou n'est pas là. Donc voilà. Et puis en plus, je trouve que je suis assez fasciné. Je trouve que c'est un exemple et une carrière assez inspirante, celle de Brice Samba, comme quoi voilà, à 28 ans tous les chemins peuvent mener à l'équipe de France et que il faut jamais lâcher. Donc voilà, clairement moi je trouve que ce serait une immense récompense pour Brice Samba.
Il espérait être numéro 1 à Marseille, hein. Il y avait Malanda à l'époque effectivement qui ne voulait pas céder sa place, évidemment coach. Et après Jeannot nous dira pourquoi Brice Samba n'est pas la tendance.
Mais si tu veux, il y a aussi quand même une évolution dans le poste de gardien, c'est le jeu au pied. Et quand tu vois le jeu au pied de Brice Samba, beaucoup de joueurs de champ n'ont pas sa qualité technique de relance. Ensuite, j'ai eu le plaisir de le voir pendant 5 mois quand j'ai donné un coup de main à Caen. Ben, j'ai rarement vu un gardien aussi bon et aussi difficile à battre. On va pas rentrer techniquement dans les moindres détails. Et pourtant, des bons gardiens, j'en ai eu, que ce soit Olmeta, Huard, Antoine Bell, tout ça. Donc, si tu veux, je vais pas tous les citer. Mais ce gardien-là m'avait tout simplement impressionné. Donc, c'est pour ça que je serais vraiment étonné de ne pas le voir dans les trois gardiens. Et pour moi, je suis même plus optimiste. C'est-à-dire, il y a Maignan, il y a lui, et après, ça se jouera la troisième place avec Lafont, Areola, celui de Lille que je trouve très bon,
Chevalier.
Aussi Chevalier.
Il y a Lannelier aussi
qui va rester avec l'espoir, voilà, comme Mélier, mais ça c'est important pour ses
Mélier qui va rester avec l'espoir. Mais pour moi, je parle même pas des trois meilleurs gardiens. Les deux meilleurs gardiens français en ce moment, c'est Maignan, Samba, point final.
Exactement. Ah, pour moi, c'est le meilleur gardien de Ligue 1, Brice Samba, cette saison.
Bon, Jeannot est avec nous, hein. Il suit également Real Madrid Liverpool. Nos infos, c'est plus une tendance à Alban Lafont que Brice Samba, hein, mon cher Jeannot.
Alors, nos infos, c'est qu'il y a une réflexion et qu'elle existe et qu'il y en a un plus que l'autre qui est prêt à accepter une hiérarchie inférieure. C'est ça le vrai problème. Ça veut dire aussi que pour Samba, il intéresse le staff, il a intéressé Franck Rabiot, il intéresse Didier Deschamps. Mais après, c'est de savoir quand la hiérarchie sera mise en place, si bien il n'y a pas de soucis avec Brice Samba plus qu'avec Lafont ou avec Areola. C'est juste à ce niveau-là qu'il y a une réflexion. Ah. J'ai pas dit qu'il ne serait pas retenu. J'ai dit simplement qu'il y a une vraie réflexion et que sous-entendu peut-être qu'un Lafont acceptera plus d'être numéro 3 qu'un Brice Samba du haut de ses 28 ans et de l'expérience qu'il a par rapport à ce que vient de résumer Walid à Cherchour. Après, juste pour une parenthèse désespoir, ne perdez pas de vue que un, il y a l'euro. Et deux, il y a les jeux.
Oui,
Meslier, c'est un 2000. Donc Meslier, c'est le numéro 1, c'est le capitaine, c'est celui qui va garder les buts pour le championnat d'Europe. Chevalier, c'est un 2001. Donc ça veut dire qu'il va prendre la suite pour notamment les Jeux Olympiques de 2024, ou en tout cas postuler en tant que numéro 1. Donc ce qui veut dire que dans cette hiérarchie-là, il y a peut-être un coup à jouer pour Samba, effectivement, même si Lafont a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui.
Non, mais juste, Jeannot, j'ai une question. C'est pas.
Mais Lafont, pour moi, il va se battre pour la troisième place.
Oui, madame, c'est pas contre toi, c'est contre le fameux raisonnement. Du gardien qui doit accepter entre guillemets son sort.
Moi, j'ai déjà un cas de figure en équipe de France.
Déjà, c'est important. Le management,
bien évidemment. Il y a un cas de figure en équipe de France qui a été compliqué à gérer, c'est Ruffier. Ruffier, à un moment donné, il a dit non, mais attendez, moi je viens pas pour être numéro 3, je viens pas pour être numéro 2, je viens pour être numéro 1. Ruffier, merci, au revoir.
Tiens, rapidement, un but du Napoli, Aurélien Tiercin.
Et la tête de Victor Osimhen, il enlève son masque. Il est monté très très haut, des abdos en béton là, avec ses cheveux peroxydés sur le dessus. Victor Osimhen qui reprend un centre de Matteo Politano. Il avait bien combiné avec son capitaine Di Lorenzo sur le côté droit. C'est mérité pour le Napoli qui met donc 1-0. On est à la toute fin du temps additionnel de la première période. Victor Osimhen qui marque son 24e but de la saison en tout et pour.
Jeannot, juste pour finir, t'as Walid. Ouais,
non, juste pour terminer, bien évidemment que on sait très très bien que c'est important l'équilibre, notamment pour les trois gardiens, l'ambiance. Il y a aucun souci là-dessus. Mais je serais très étonné que Brice Samba, par rapport à tout ce qu'on expliquait, par rapport à sa trajectoire, arrive en rassemblement, en bombant le torse, en disant hey, :« Eh les gars, moi, écoutez-moi bien, c'est Mike Maignan le numéro un. Mais moi, dans un an, dans deux ans, je veux lui piquer sa place, sincèrement. Et puis surtout, il faut pas non plus enlever le facteur compétitif que peut avoir un joueur de haut niveau. Le joueur qui vient et qui s'assoit et qui dit :« Bon, moi, je vais faire 10 ans en équipe de France à la deuxième place. » Moi, j'aime pas ce style de joueur.
Non, mais Walid, j'entends ce que tu dis et moi, je suis pas Didier Deschamps. Je te dis simplement les informations qui nous reviennent.
C'était une question.
Et il y a un cas de figure en équipe de France et qui à un moment donné a fait des ordres, c'est Stéphane Ruffier. Quand il est arrivé, il a dit moi je veux pas être 3, je veux pas être 2,
mais encore le 3ème, je peux le comprendre,
merci et au revoir. Non, mais il y en a un à un moment donné qui a été champion du monde, même s'il était numéro 3, c'est Areola. Il joue pas en première ligue, okay, mais il est titulaire avec West Ham en Coupe d'Europe et dans les coupes nationales, et il a été numéro 2, souvenez-vous, il a même joué au mois de juin dernier par rapport à la Ligue des Nations.
Donc, ce qui veut dire que s'il est blessé, le numéro 1 c'est Areola,
c'est le remplaçant de West Ham.
C'est la question qui est en train de se poser le staff de l'équipe de France. Ils ont peut-être trouvé la réponse, moi je ne l'ai pas, mais en tout cas ils se posent la question de savoir si 1, Maignan c'est faisable, 2, Samba et 3, Areola c'est faisable, ou 2, Areola et 3, Lafont. Voilà les questions que se pose le staff de l'équipe de France.
Bon, on va prolonger là-dessus également.
C'est la mi-temps. 0-0,
c'est la mi-temps, Jeannot.
Et c'est de plus en plus compliqué pour Liverpool.
Ouais, c'est compliqué.
Le Real but à rejoindre.
3 fois, ça s'en a encaissé pour espérer.
Le Real, ils ont vraiment la recette pour anesthésier les matchs quand même.
Pour l'instant, ils le font très bien. On sait-on jamais, ça peut s'emballer en deuxième période. Allez, reste avec nous pour nous appeler au 32-16 pour participer au débat sur
la hiérarchie
des gardiens.
Ce
serait bien, et même, pas mal. Raison.
Je reste avec nous. On voit beaucoup et c'est 0-0.
Génération After avec Coach Courbis et Walid Acharchour. On vient dans quelques secondes, à tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas avec Coach Courbis et Walid Acharchour. Merci d'être avec nous sur RMC. Il est 21h52. C'est la mi-temps donc sur les deux pelouses. Pour l'instant, le Real tient tranquille sa qualification pour les quarts de finale. 0-0 face à Liverpool. 1-0 pour le Napoli qui est en train de sceller sa qualification pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Olivier Giroud devrait en être, messieurs. Voilà. Immortel, c'est Highlander, Olivier Giroud. Chaque fois, on pense que c'est terminé. Il devrait être dans ce groupe-là pour les matchs éliminatoires pour l'Euro 2024, bien sûr.
Et quel âge il a ?
36 ans, Olivier Giroud.
35 ou 36.
Et Mont Savanier, il est vieux, alors.
Mais là,
non, mais c'est incomparable.
Deschamps veut pas lancer un gars, ouais, un gars de 30, ouais. 32 ans bientôt. Pardon. Voilà, peut-être c'est ça. Coach, tu en penses quoi, toi, Giroud, éternel en équipe de France? 36 ans.
Ouais. Il a eu 36 ans le 30 septembre.
Bah, c'est-à-dire que son profil est difficile à trouver dans un rôle de pivot costaud, bon de la tête, avec une équipe qui fait des centres. Puisque bon, si nous jouons avec quatre défenseurs, c'est une chose, et encore que c'est pas interdit de monter pour les latéraux. Mais cette présence devant le but, ce point de fixation, ce qui est important aussi pour la bonne zone pour Mbappé, qui est surtout pas la zone d'un numéro 9, mais de quelqu'un qui prend un petit peu d'élan pour après accélérer et être vraiment irrésistible. Donc ça fait la complémentarité, parce que si on cherche le profil Giroud, à part Giroud, qui on va trouver Thuram un petit peu dans le profil de numéro 9.
Ouais, et encore, il aime bien sur un côté Marc Thuram. Ouais,
bon, il est assez polyvalent, Thuram. C'est vrai qu'on a c'est un profil de joueur qu'on a pas. Mais moi je suis.
On aurait pu l'avoir avec Sébastien Haller, hein,
qui a choisi la Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire finalement.
Ou même Moussa Dembélé qui s'est un peu enterré.
Oui. Il est critiqué.
Ouais. Moi je suis plus surpris du choix de Giroud de continuer que
ouais.
Parce que je pensais
magnifique, il kiffe être en équipe de France.
Oui, il kiffe, c'est très bien.
Ouais, mais il veut dire Walid, quand tu vois Varane qui a 29 ans et demi, qui arrête.
Lloris qui arrête, voilà. Je me suis dit peut-être qu'il va finale de Coupe du Monde, 36 ans, il a battu le record de Thierry Henry. Je pensais que à 36 ans,
champion du monde aussi d'ailleurs.
Je l'imagine pas aller jusqu'en. Vous pensez qu'il va jouer jusqu'en 2024, Giroud?
Il se pose qu'une question. Je pense que tant qu'il est en forme, et il l'est avec le Milan. Il continue, le garçon.
37 ans et demi.
Pourquoi pas?
D'accord, ok.
Regardez, Ibra à 41 ans, il retrouve la sélection suédoise.
J'ai du mal à imaginer. Oui. Et si.
Non, ce qui est plus surprenant, c'est que Deschamps continue avec lui,
c'est
justement.
C'est pas pour faire injure à Giroud, bien évidemment, hein, qui est une légende.
Et que Deschamps n'en voulait plus vraiment, quand il avait rappelé Benzema.
De cette équipe de France. Mais si on continue à sélectionner Olivier Giroud à 37 ans et demi à l'Euro 2024, c'est quand même qu'on a un manque de renouvellement de génération à ce poste-là qui sera pris en.
Pas ce poste, de ce profil.
Mais même au-delà de ce profil, c'est que déjà d'une, ça voudrait dire que Deschamps ne sait pas jouer autrement, parce que il y a d'autres joueurs, par exemple un Kolo Muani qui s'est un peu affirmé qui va continuer à s'affirmer. J'imagine qu'il va quand même prendre cette place de numéro 9.
Voilà, celui-là, s'il continue à progresser.
Plein de peps, plein d'énergie, etc. On ne sait pas où est-ce qu'il va aller l'année prochaine, mais on parle des plus grands clubs, on parle du PSG, de Manchester United. Donc normalement la dimension il va la prendre peut-être dans un rôle de grand frère en remplaçant.
Il a déjà un grand frère, hein, t'as vu.
Oui, c'est vrai. Ouais. Mais et avec un témoignage très poignant, oui. Sur Téléfoot notamment. Mais voilà, je pensais moi que Olivier Giroud allait arrêter. Maintenant il va continuer à rendre service à cette équipe de France. Jusqu'à quand, je sais pas.
Bon, on verra. Olivier Giroud, ça fait réagir, hein, on le dit sur Direct Studio. Giroud est performant. Pourquoi le Milanais n'y serait pas, effectivement?
Bien évidemment, oui. Non, mais je parle plus de son choix, lui. Choisir sa fin.
Ouais, il est sérieux, il prend pas un gramme.
Ouais, donc, aussi, peut-être. Ça se comprend.
Donc, je pense que c'est même un petit peu un exemple comme.
Mais c'est vrai que les numéros 9 qui poussent derrière. Pour moi, Thuram, c'est pas un vrai numéro 9. Bon, il est
rentré. Ça manque d'alternatives.
Il y a ce Kolo Muani qui est intéressant.
Mais sinon, il y a pas grand chose. Hein. Avant, à l'époque, Wissam Ben Yedder qu'on peut rappeler, mais qui avec l'équipe de France n'a jamais.
Non, mais effectivement, l'alternative Kolo Muani, elle est très pertinente. Hein. Oui. Il peut jouer neuf, c'est un vrai neuf. Il peut jouer sur un côté aussi.
Oui.
Il peut jouer pivot également,
oui.
Avec Mbappé qui tourne autour.
Oui. Il peut jouer en profondeur. C'est un joueur qui fait jouer les autres aussi, parce que je crois qu'il a 9 ou 10 passes décisives en Bundesliga. En tout cas, il a totalement, pas le profil de Giroud, mais le profil pour être le numéro 9 de l'équipe de France.
C'est quand même une trouvaille de Didier Deschamps, parce que moi je le voyais bon celui-là, mais pas aussi bon que ce que j'ai
après,
pu le voir.
Quand il le prend, il est déjà très très fort à Francfort.
Meilleur passeur de Bundesliga.
Ouais, et l'année dernière, faut pas oublier qu'il gagne la Coupe de France avec Nantes, où sur tous les gros matchs, Kolo Muani se met la zizanie dans toutes les défenses françaises. Ouais.
Bon, alors évidemment, ça réagit beaucoup sur le débat des gardiens sur Direct Studio. Que fait encore Alphonse Areola en équipe de France? Bon, voilà.
C'est la logique des champs.
On vous l'expliquer, hein. Logique des champs, logiciel des champs. Un homme, comment dire, fiable selon lui dans la vie d'un
joueur.
Sur la durée.
Moi, déjà, ce raisonnement-là me dérange.
Des années.
Mais il me dérange encore plus s'il est numéro 2, en fait. À la limite, s'il est numéro 3, il n'y a pas de souci. allez, aujourd'hui, tous les sélectionneurs font marche comme ça. Moi, je vais l'entendre. Mais qu'il soit numéro 2 derrière Mike Maignan, alors que il est remplaçant à West Ham en temps normal, je trouve ça quand même problématique.
Les gars, voilà pour Génération After. Je vous rappelle les scores à la mi-temps des deux huitièmes de finale retour de Ligue des Champions. 0-0 entre le Real et Liverpool. Pour l'instant, le Real est qualifié. Tiens, on nous dit sur la Direct Studio, donc on est à 45 minutes de la retraite de Fred Armel qui avait annoncé un avant-match. Ça fait 0-0. Je pars à la retraite.
Ah oui, c'est pas faux.
On va le retenir, ce truc-là.
C'est pas faux.
On va voir, c'est un homme d'engagement,
ouais, Fred Armel. Exactement. Hein, il faudra le glisser.
Est-ce qu'on n'a pas presque envie que ça fasse 0? Non, je plaisante.
Salut Daniel.
À la fin. Et donc 1-0 pour le Napoli.
Il faudra que tu le dises à Gilbert, ça.
Face à l'Eintracht Francfort, hein, le Napoli, puisque jamais qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Merci Walid. Merci coach.
Merci à toi,
salut,
Nico.
Salut. Tu peux rester là, coach. Tu vas regarder la fin des matchs avec Gilbert, Daniel. Et Lionel, hein. Je sais que tu es très intéressé par les matchs ce soir, évidemment. Dans un instant, l'after, Gilbert arrive, Daniel Rieu, Lionel Charbonnier. Jusqu'à minuit, évidemment. Bonne soirée à tous sur RMC.